Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, voici le libre journal de Serge de Bekech, daté du 23 juin 1999, et rediffusé ce dimanche 23 février 2014 dans la nuit de 2h à 5h. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
J'attaque tout de suite ? Incroyable. Amis de la résistance, bonjour. Vous allez bien, Madame Victoria ?
Très bien. Eh ben, je ne réponds pas au titre Amis de la résistance.
Pourquoi ?
Parce que je fais pas partie des Amis de la résistance.
Ah bon ? Vous faites partie des Amis de la collaboration ?
Non plus.
Partie des Amis de personne.
Voilà. Ouais. Je suis sur ma colline.
Avant de recevoir mes invités, enfin mon invité principal, puis premier, puis qui est là en plus, donc c'est le meilleur, c'est Jean Parvulesco. Qui est accompagné d'Arnaud Guyot-Janin, qui jouera ce soir le rôle de poisson pilote. On peut dire ça
Je vais essayer.
Voilà. Et tout à l'heure, je recevrai Marie-Antoinette Mulot.
Oh, il y avait longtemps qu'on ne l'avait pas vue.
Parce que vous n'écoutez pas charmante. Les radios périphériques.
Charmante Marie-Antoinette.
Périphérique. Elle était cet après-midi sur, je ne sais pas si c'est Europe numéro 1 ou Radio Luxembourg.
Je n'écoute que le matin.
C'est bien. Donc elle viendra tout à l'heure nous donner quelques conseils herbacés. Avant un petit regard sur l'actualité, réponse au courrier, la semaine dernière, j'ai parlé du résultat des élections, et notamment de l'étrange 1,7% qu'avait fait monsieur Nicolas Miguet. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un incident technique. Apparemment ça n'a pas pris sur la bande magnétique, puisque dans la rediffusion j'ai pas entendu. Et comme, j'ai pensé que ça avait peut-être déplu et qu'on l'avait coupé, mais comme le lundi, Jean Ferré a dit que c'était totalement libre et qu'il n'y avait jamais de... Alors donc, je pense que c'est un incident technique. Il y a un coup de savonnette, ça arrive sur le...
Ah oui, oui, oui.
Ça n'enregistre pas. Donc, les auditeurs qui auraient pu être étonnés par mes propos, parce que j'ai tenu des propos dont je sais qu'ils ont étonné au moins un auditeur qui a pris la peine de m'écrire, assez désagréablement d'ailleurs, puisqu'il me somme de présenter des excuses, ce que je n'ai pas du tout l'intention de faire, bien entendu. Donc un auditeur, une lettre, ça veut dire qu'il y a au moins une personne qui écoute.
Oui.
Bon. Je vais lui envoyer le texte que je me propose, enfin la coupure de presse, les coupures de presse que je me propose d'envoyer à toutes les personnes qui voudront savoir sur quoi j'ai fondé mes propos. Hein, ça me paraît correct.
C'est une bonne chose.
C'est pas un texte que j'ai fait moi-même, c'est un texte qui est paru dans un journal local en Normandie, et un texte qui est paru dans Le Monde. Alors là, dans Le Monde, c'est forcément vrai. Hein. Il n'y a pas de discussion possible, c'est des faits, c'est factuel le monde. Donc voilà, si vous voulez savoir pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit, d'abord savoir ce que j'ai dit, si vous n'avez pas écouté, hop, eh bien vous m'envoyez une enveloppe timbre, non même pas timbre, vous m'envoyez une enveloppe, tiens, je suis tellement généreux que je vais payer les timbres moi-même.
Mais
après
non,
tout,
mais non.
M. Miguet, il a dépensé 7 millions pour ses affiches, je peux bien dépenser 3 francs pour un timbre.
Mais toi t'es généreux.
Je suis généreux, c'est vrai. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah, alors, j'ai parlé d'un autre couple fort sympathique, d'ailleurs. Enfin, à moitié sympathique. C'est... comment il s'appelle, déjà ? J'ai oublié ça. Villiers et Pasqua. Et là aussi, coup de savonnette. Donc, ce que vous n'avez pas pu entendre pour cause de savonnette, je le dis dans le libre journal. Alors là, si vous voulez le savoir, vous envoyez 30 francs en timbre, 4 places France Liste.
Dans le
10e arrondissement de la capitale, et vous recevrez un éditorial qui est aussi quelque chose... Tout ce qu'on peut faire pour perdre des lecteurs. Parce que je suis sûr que j'ai des lecteurs qui ont voté Pasqua, c'est évident.
Ben oui, mais alors, je leur écris. Là, ça va leur ouvrir les yeux.
Lettre ouverte aux électeurs
c'est
de Pasqua.
Très bien.
Voilà.
Moi qui n'ai pas voté Pasqua, j'étais dans l'enchantement.
Ouais, j'en reviens pas encore. Je dois dire que je rêve. Alors, je sais ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de téléphoner à Radio Courtoisie pour dire, monsieur de Bécquet, je ne comprends pas. Radio Courtoisie n'a pas d'ennemis à droite. Et vous dites que vous n'aimez pas monsieur Pasqua, monsieur Miguet. J'ai déjà répondu à cet argument. Je ne le retiens pas. Pourquoi? Parce que Radio Courtoisie n'a pas d'ennemis à droite, ça veut dire la radio donne la parole à toutes les familles de la droite. C'est d'accord. La radio n'a pas d'ennemis. Mais les familles de la droite, elles, peuvent chacune avoir, sinon des ennemis, du moins des gens qu'elles n'encaissent pas vraiment. Alors, je dis, je n'ai pas... Enfin, contrairement à Radio Courtoisie, qui n'a pas d'ennemis à droite, moi, il y a à droite, ou dans la prétendue droite, des gens que je peux parnifler. Et comme je suis un esprit libre, je le dis, comme d'autre part, je ne fais pas Radio Courtoisie pour gagner des sous, parce qu'on est bénévole, vous voyez, sur cette radio, comme vous ne l'ignorez pas. Eh bien, le moindre des choses, quand même, c'est que je dise ce que je pense, tout ce que je pense, comme je le pense, quand je le pense. Je le fais gratuitement, c'est déjà beau.
Comme disait le marchand de chemise.
Comme disait le marchand de chemise, c'est déjà beau. C'était bien, ça, non? Ça va, là, merci.
Moi, ça va, si vous soulignez,
je suis obligé, parce que comme j'ai vu votre beau regard céladon se paumer dans l'abîme.
Totalement imperméable, cette chose. J'ai un message sur M. Pasqua, tiens, tout de suite. Non, si d'entrée de jeu. Non, c'est gentil, c'est quelqu'un qui vous pose une question précise.
Serge, restez calme.
Oui, ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Monsieur Pasqua a-t-il, oui ou non, voté pour le traité d'Amsterdam au Congrès le 18 janvier à Versailles? Première question. Sinon, a-t-il participé à l'informe, ça je ne sais pas, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'écrit sur le papier, l'informe réunion de la Galerie des Glaces le 18 janvier 1999.
La Galerie des Glaces, on dit.
Oh, une si belle galerie.
Je ne sais pas, si quelqu'un sait, il peut me téléphoner, je transmettrai. Moi, je n'ai pas besoin de savoir ce que Pasqua a fait pour savoir que je ne l'aime pas, vous voyez.
Puis vous savez ce qu'il a fait
avant. Ça simplifie beaucoup mon existence. Alors, beaucoup d'auditeurs disent, que devient le pèlerin? Eh bien, le pèlerin, voilà, j'ai enfin la réponse. Pourquoi ne peut-on pas lui téléphoner quand on essaie? Le pèlerin, c'est Jean L'Aiguillet. Je ne sais pas, Jean-Pierre Lescaut, si vous avez été informé de ça. Si peut-être,
non.
Donc, il y a un pèlerin, un monsieur, une bonne soixantaine d'années,
si. Voyez,
qui est parti je sais pas, du bout de la France, et pour gagner à pied Jérusalem.
Ça fait 6 mois, moins, qu'il est parti.
Oh oui, oui, ça fait longtemps. Oui. Alors, en ce moment, il est en Syrie. C'est quand même pour les vacances, moi j'aurais choisi plutôt autre chose. Enfin, lui c'est la Syrie. Et après il va passer en Israël. Donc ça s'arrange pas. Et donc, alors, il est en Syrie. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le joindre téléphoniquement. Mais, normalement, le 7 juillet, il sera à Nazareth. Et le 14 juillet, il sera aux portes de Yerushalayim. Et alors, je le signale à l'ami de ce. Enfin, l'ami, il y a une personnalité éminente qui devait venir à cette émission aujourd'hui. Pour s'entretenir avec le pèlerin, mais comme impossible de joindre le pèlerin, j'ai demandé à la dite personnalité de repousser sa présence, et par conséquent, on essaiera d'organiser quelque chose, certainement pour le 14 juillet, parce que le 7 juillet, ça sera Lugan. J'essaierai d'obtenir de Lugan qu'il me rétrocède un quart d'heure pour causer au pèlerin.
Alors là, il faut lui dire longtemps à l'avance, parce que son émission est préparée au petit
point. Oui, je sais bien, ça va être difficile, il va encore faire la tête. Bon, on va essayer, on verra bien. Autrement, le 14 juillet, on parlera de son arrivée solennelle à Jérusalem le lendemain, et ça nous changera de cette mauvaise date maudite qu'est le 14 juillet, comme le 18 juin. Vous savez ce que c'est le 18 juin?
C'est l'anniversaire de mon petit-neveu.
Ah oui, c'est pour ça. C'est le jour où un général entouré d'Anglais a pris la parole. À Waterloo, c'est là que Cambronne a dit ce qu'il a dit après qu'il n'avait pas dit.
Tu parles du 18 juin 40?
Non, ça, voilà, il a moins de 30 ans, donc l'histoire de France, pour lui, c'est un truc, ça commence en 68.
Non, je vais te dire pourquoi j'ai dit ça. Parce que le 18 juin 1999, la semaine dernière, oui. Le collectif Non à la guerre, on est allé voir Jacques Chirac à l'Élysée, on lui a remis les 100 000 signatures des pétitionnaires qui ont signé contre la guerre. Donc c'est aussi un deuxième appel, nous avons fait également un appel du 18 juin. Appel historique, bien entendu.
Il n'y avait pas ma signature, d'ailleurs, je le signale.
Non, non, mais tu ne veux pas pétitionner.
Non, d'abord, je ne suis pas contre la guerre.
Un homme libre.
Je ne suis pas contre la guerre, je suis pour la guerre. C'est le seul moyen de gagner du fric, la guerre.
Contre la guerre américaine, tu étais.
Oui. Alors, en tout cas, voilà. Donc, il sera le 14 juillet, le pèlerin, avec nous, si Dieu veut. Maintenant, j'ai parlé d'autre chose, la même semaine. J'ai cité le témoignage d'un officier espagnol. Et ça a beaucoup intéressé nos auditeurs, puisqu'il y en a plusieurs qui m'ont écrit ou téléphoné au Libre Journal, 4 Place France-Lé, 75 0010 Paris, l'abonnement est de 700 francs, le réabonnement de 600 francs. C'est bien, hein,
ouais.
Pour me demander des détails sur cette déclaration. Alors, il s'agit, vous avez des stylos, prenez de quoi écrire, je dicte. Il s'agit d'un extrait d'un un article publié par l'hebdomadaire espagnol Articulo. Alors, ça y est, il y a un chiffre. Comment tu dirais 20, toi, en espagnol?
Ben, vous dites 20, puis vous dites voilà. Tu parles pas espagnol?
20.
Pardon?
20.
20, ben, j'aurais dû savoir. Non, parce qu'en général, quand j'essaie de parler espagnol, je parle italien. Alors, j'aurais dit 20, d'ailleurs. Articulo 20. Mais... Alors, articulo 20, numéro 30. Donc, numéro 30 du 14. Alors, le 14, je vous le dis en français parce que c'est mon truc. Du 14 juin. Article à propos des bombardements de l'OTAN en Yougoslavie et du rôle de commandement des Américains. Et alors, c'est un pilote espagnol qui s'appelle El Capitán Adolfo Luis Martín de la Hoz, qui est rentré en Espagne après avoir participé aux opérations depuis les premiers jours, considéré comme, en Espagne comme un des meilleurs experts dans le pilotage du F-18, l'avion de guerre le plus souvent utilisé dans la stratégie de destruction systématique utilisée dans les Balkans. Et il a dit, avant tout, il doit être clair que la majorité, je dis bien la majorité, sinon la totalité de mes camarades pilotes, sont contre cette guerre et contre cette barbarie. Nous n'avons pas eu de pire adversaire que nos autorités, le ministre de la Défense et son cabinet, le gouvernement tout entier, qui ont menti au peuple espagnol à longueur de temps dans la presse, sur les radios et la télévision. À plusieurs reprises, notre chef de corps a protesté devant les autorités de l'OTAN contre la désignation de cibles non militaires. À chaque fois, il a été rembarré et averti. C'est une traduction personnelle de l'espagnol. Donc, rembarré, c'est peut-être pas exactement le mot utilisé. C'est en espagnol, je crois qu'il a dit desblensatas ou desblensadas, quelque chose comme ça. Ce qui veut dire rembarré, voilà.
Jean-Paul Vulesco pourrait peut-être te le dire, ce qu'il a. Ah, comment dit-on ? Il a vécu pendant quelques années à Madrid.
À vous. Desempledas ou des. Enfin, peu importe.
Ça veut dire attendrir. Ah, mais là, quand des bistecs.
Ah oui, c'est pas exactement ce mot-là. C'est un mot dans le genre, là, voilà. En tout cas, dans mon dictionnaire, ça voulait dire écarter, renvoyer, alors j'ai dit rembarrer. Et averti que des plaintes seraient portées contre lui à Bruxelles et auprès du ministère de la Défense espagnole. C'est-à-dire que l'état-major américain, l'état-major otanique, a averti ce capitaine espagnol que comme il protestait contre le fait qu'on lui demandait de bombarder des cibles non militaires, on allait porter plainte contre lui auprès du gouvernement espagnol et de Bruxelles. Et il ajoute, le capitaine Luis Martín de la Rosa, plus encore, un jour nous avons reçu l'ordre du commandement militaire américain de larguer des bombes antipersonnelles sur les villes de Pristina et Niche. Notre chef de corps a refusé catégoriquement, deux jours plus tard il était muté. Les soldats espagnols dénoncent l'attitude de leur gouvernement qui non seulement n'a rien fait pour les informer de la réalité du conflit, mais a même accepté sciemment de faux rapports établis par le cabinet militaire en poste sur la base aérienne OTAN d'Aviano en Italie. Cabinet militaire totalement sous la coupe des Américains. Et le capitaine de la Rose ajoute, du jour où nous sommes arrivés en Italie, les insultes et les humiliations n'ont pas cessé, les ordres venaient exclusivement du commandement américain et de personne d'autre, nous étions considérés comme des quantités négligeables, il en va de même pour nos camarades qui ont pris la relève. On vous dit ici en Espagne que les forces espagnoles engagées dans le combat étaient assurées par que le commandement des forces espagnoles engagées dans le combat était assuré par l'état-major espagnol, c'est un mensonge absolu. Toutes les missions, toutes sans exception, et toutes et chacune ont été conçues, programmées et ordonnées par les seules autorités américaines. Rien n'a jamais été laissé à notre appréciation, ni le choix des appareils, ni le choix des munitions, ni le choix des cibles, ni le choix de l'heure. Tout était décidé unilatéralement, sans aucune consultation de nos officiers supérieurs par le commandement américain. Nous n'avons jamais eu le contrôle de la moindre décision, et tout ce que l'on nous a obligé à commettre est un des plus grands actes de sauvagerie de l'histoire. Voilà ce que déclare le chef pilote Adolfo Luis Martín del Haus, considéré comme un des meilleurs experts espagnols du pilotage de l'avion F-18. Alors, je rappelle, donc, c'est publié par Articulo 20, voilà, du 14 juin, l'hebdomadaire espagnol Articulo 20. Et je signale d'autre part que la raison pour laquelle je lis cet article, c'est que... C'est un officier espagnol qui donne l'exemple de la vérité. Il va démissionner des forces armées. S'il n'a pas déjà démissionné des forces armées espagnoles, il va le faire. Et je constate simplement que, sauf erreur de ma part, un seul officier français qui a eu le courage de faire la même chose. Or, ce qui a été imposé aux officiers espagnols, aux officiers pilotes espagnols, c'est-à-dire un commandement américain, a évidemment été infligé et imposé également aux officiers pilotes français. Et aux officiers pilotes de toutes les unités. Donc, voilà, c'est tout. Je voulais faire cette remarque. C'est un peu pénible à dire, mais c'est la vérité. Maintenant, je voudrais vous inviter tout spécialement à lire le dernier numéro, celui qui est paru aujourd'hui, de Présent. Pour deux raisons, parce qu'il me paraît résumé de la façon la plus parfaite le drame qu'est en train de vivre la presse du mouvement national et du Front National, je dirais plus exactement la presse de la famille nationale. Nous faisons l'objet depuis quelques mois d'une véritable campagne de boycott qui se traduit par des désabonnements qui vont pas tarder à être mortels pour certains des titres. Et tout ça est fondé sur des justifications plus ou moins vaseuses, justifications selon lesquelles on aurait fait ou pas fait, ou pas bien fait ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire, etc. Et Présent répond par la plume de Jean Madiran d'une façon, comme toujours, lumineuse à cette argumentation. Je vous laisserai le soin de lire cet article qui est tout à fait remarquable, qui est probablement la meilleure réponse qu'on ait pu apporter à cette campagne à la fois mortelle et suicidaire qui est menée contre nous. Et il y a également dans Présent deux articles. Un article sur la fête de la musique de Caroline Parmentier qui montre que cette fête de la musique a été le lieu de très nombreux incidents graves, avec des blessures graves par armes blanches, etc. Ce que aucun média n'a dit nulle part. Aucun journal, aucune radio. Donc, il faut que vous compreniez, chers amis qui vous désabonnez de Présent parce que vous n'êtes pas content de telle ou telle prise de position du journal, que le jour où Présent aura disparu parce que vous aurez été trop nombreux à vous désabonner, eh bien, ces choses-là, vous ne les saurez plus. La première victoire, elle sera remportée non pas par ceux qui prétendent faire payer à Présent ce qu'ils appellent un choix partisan dans une bagarre où il n'avait pas plus à prendre position et où il n'a pas plus pris position d'ailleurs que moi-même avec le Libre Journal. Le jour où ceux qui veulent se venger de ce qu'ils considèrent comme une félonie ou une trahison de Présent ou du Libre Journal auront gagné, eh bien, ces informations, ils ne les auront plus. C'est-à-dire qu'ils seront soumis au matraquage universel et constant du mensonge de la presse larbine. Il faut que vous le sachiez, ça. Bien. Là, au moins, on commence à savoir la vérité. C'est-à-dire que, comme chaque fois qu'il y a maintenant une fête un peu importante, ou même pas importante du tout, l'occupant en profite pour semer la terreur et pour terrifier les populations autochtones. Bien. Deuxième article publié par Présent, qui est un article capital, c'est un article sur ce qui est en train de se passer en ce moment, le complot qui est en train de se développer, le complot communiste contre le scoutisme, contre la liberté du mouvement scout en France, qui va beaucoup plus loin que la survie du mouvement scout lui-même. Il s'agit, comme toujours, de la part des communistes, d'attaquer un endroit qu'ils jugent faible, affaibli et sans défense pour enfoncer une ligne et ensuite utiliser la victoire remportée sur ce terrain pour la porter sur d'autres terrains. Et là, c'est absolument typique. Ils agissent avec la complicité des scouts de France qui sont dirigés par un homme qui s'appelle Dacosta et qui est un homme qui se prétend apolitique alors que la seule interview importante qu'il a donnée depuis des années, c'est dans l'Humanité qu'il l'a donnée et qui prétend qu'il est ni extrémiste ni politisé, ce qui est vraiment se foutre de la gueule du monde. Hein. Donc, cette agression contre le scoutisme est menée avec l'aval de certains scouts de France dirigés par Dacosta et avec la complicité sournoise, dégonflée, pleurnicharde de certains dirigeants des scouts d'Europe qui sont en train de se ranger du côté de ceux qui vont avoir leur peau, parce que, je le dis tranquillement à mes amis scouts d'Europe, ne rêvez pas. Vous n'allez pas vous tirer des menaces. Vous n'allez pas éviter les menaces qui pèsent contre vous en vous ralliant à vos tortionnaires. Vous serez égorgés comme les autres. Et vous serez égorgés avant ceux que dont vous prétendez aujourd'hui vous détacher pour apparaître moins dangereux. Je vous dis, scouts d'Europe, quand vous faites semblant de n'avoir rien à voir, de n'avoir rien de commun avec vos frères scouts de Riomont, vous croyez que vous êtes en train de vous couvrir vis-à-vis du pouvoir communiste, vous n'êtes pas en train de vous couvrir, vous êtes en train de vous couvrir de merde. Ça, oui, c'est clair. Et vous le paierez très très cher, parce qu'ils vous puniront. Ce sont des gens qui n'ont strictement aucun respect pour les larbins. Les premiers qui seront punis, ce sera vous. Et après seulement les résistants de Riomont. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. Il y a donc un papier de Rémi Fontaine sur cette affaire qui est tout à fait passionnant. Ça fait quand même trois articles, au moins trois articles qui sont très importants dans un seul numéro de présent. Et pour ma part, il y a un article qui me déplaît très profondément, je le dis, dans ce numéro de présent. C'est un article qui s'intitule « Trois questions à Jamie Shee, le bien nommé, porte-parole ». Ça, le bien nommé, c'est moi qui l'ajoute. « Porte-parole de l'OTAN ». Et c'est une interview, probablement à l'AFP ou je ne sais pas, qui est publiée sans commentaire et qui donne la parole à cette ordure invertie de Jamie Shee, qui est vraiment un être abject et immonde.
Une caricature d'Américain.
Oh, c'est même pas ça.
Caricature d'acteur porno.
C'est ça. C'est un acteur de film pornographique. Eh bien, on lui pose trois questions qu'on publie sans aucun commentaire. Chacune de ses réponses est abjecte de lâcheté, de cochonnerie morale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, comme il y a trois quarts de colonne consacrés à Jamie Shee en présent, je vais me désabonner de présent, que je vais arrêter de le lire. Et comme ça, je vais ne plus savoir ce qui se passe dans ce pays, parce que quand présent aura crevé, évidemment, je ne lirai plus les conneries pro-serbes de monsieur pro-albanaises et pro-kosovars, prétendument kosovars, de monsieur Jamie Shee. Mais je ne lirai plus non plus les vérités sur l'histoire du mouvement scout et ce qui est en train, le complot anti-scout qui est en train de se développer, et sur la réalité de la criminalité dans ce pays et de la délinquance dans ce pays. Voilà ce qu'il faut choisir. Maintenant, écoutez, vous êtes grands, vous êtes des adultes, faites ce que vous voulez. Si vous voulez que présent ou le libre journal crève, eh bien, je le dis à nos abonnés qui se désabonnent, continuez, vous allez finir par gagner. La question, c'est de savoir ce que vous aurez gagné au juste. Vous aurez gagné le droit de lire Marianne et le Parisien libéré. Ça, c'est un plaisir que je vous abandonne bien volontiers. Des questions, des réflexions, des injures.
Les incidents de la fête de la musique ont été relatés dans le Figaro d'aujourd'hui. Et, bon, vous nous vantez présent, mais pourquoi a-t-il cette attitude à l'égard des Serbes?
Mais c'est un choix. N'importe qui a le droit d'avoir une position. Vous ne pouvez pas punir un journal parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui, de A jusqu'à B, de A jusqu'à Z, de l'alpha jusqu'à l'oméga. Vous pouvez être en désaccord avec un journal. Parce que, quelle est la position du Figaro? Vous citez le Figaro à propos de cette affaire. Mais le Figaro, quelle position il a sur les Serbes? Il est pro-serbe, le Figaro? Et François, il est pro-serbe? Et le Parisien libéré, il est pro-serbe? Et l'Humanité, c'est un journal pro-serbe? Toute la presse est anti-serbe. Alors, au moins, présent à une position qui est claire, une position d'anti-serbolchevisme, selon le mot d'Alain Sanders. Je la partage pas, parce que je ne comprends pas les choses comme ça, mais c'est pas une raison pour ce... Il y a quand même des choses plus urgentes et plus importantes dans notre combat national que de savoir quelle position on a par rapport à la Serbie. C'est vrai que c'est très important, la Serbie, mais c'est pas déterminant. Ce qui est plus important, c'est de ménager l'existence de journaux qui sont des journaux de résistance.
Surtout qu'en plus, dans présent, il y a eu, je crois, une enquête sur le mouvement national où 90% des gens qui ont été interrogés étaient favorables à ce que les Américains n'interviennent pas et que la France n'intervienne pas aux côtés des Américains en Serbie. Donc présent a su quand même compenser, je dirais, l'anti-serbisme quelquefois un peu viscéral de son projet éditorial.
Je dirais pas que c'est un anti-serbisme du projet éditorial. C'est vrai que Sanders n'aime pas, enfin il a une, il n'est pas d'accord, il aime pas ce qu'il appelle les serbes bolcheviques. Mais le journal lui-même n'a pas une position aussi radicalement claire que
en tout cas l'enquête permet justement de rééquilibrer le tir.
En tout cas lui au moins donne la parole à ceux qui sont pas d'accord, ça c'est clair.
Les États-Unis auraient liquidé tout leur stock de missiles et bombes car il était périmé au-delà de l'an 2000. Non programmé pour supporter le fameux bug du 1er janvier 2000.
Oui, c'est ce qui se dit.
C'est ce qu'on dit dans les milieux militaires, ouais. Dont fait partie l'auditeur qui nous a
C'est vrai, on dit ça, et pas seulement dans les milieux militaires. Ce qu'on sait, alors d'une façon certaine, c'est que lorsque les avions de l'OTAN ne pouvaient pas larguer leurs bombes sur la Serbie pour des questions de temps, ou je ne sais pas quelle raison d'ailleurs, il est largué en mer et le résultat, c'est que plusieurs pêcheurs italiens ont été très grièvement blessés en ramenant ces bombes dans leur filet. Le résultat... Alors, vous avez un très bon exemple du mensonge à propos... Enfin, de la désinformation, du mensonge à la Jamie Shee. Là, c'est l'affaire des Anglais qui ont été tués dans une opération de déminage où on nous a dit pendant des heures et des heures que c'était en déminant une maison qui avait été minée par les paramilitaires serbes. Et maintenant, on sait que c'est pas du tout ça, c'est en essayant de désamorcer une bombe à fragmentation qui n'avait pas été explosée après avoir été larguée par un avion de l'Alliance. Mais on nous a menti encore sur cette histoire. Le mensonge est universel et permanent sur l'affaire serbe. Et rien que ça, ça devrait justifier qu'on prenne des positions de soutien au peuple serbe. Même si on n'aime pas les Serbes, on devrait les soutenir parce que ils sont les victimes de la plus grande armada du mensonge qui ait jamais été mobilisée dans l'histoire de l'humanité. Rien que pour ça.
Là où il y a un mensonge quand même gigantesque, c'est qu'on nous explique tout le temps qu'on fait la guerre avant tout à un gouvernement et pas la guerre à un peuple. Mais quand on fait la guerre à un gouvernement, on fait aussi la guerre à un peuple. Aujourd'hui, d'ailleurs, toute l'opposition serbe est soudée autour de Milosevic, précisément parce qu'il considère que le pays est agressé par les 19 pays les plus riches au monde.
Ça a toujours été la technique des Américains.
C'est toujours la technique des Américains.
Les Américains ont fait ça à Dresde, ils ont fait ça à Hiroshima. Ils ont fait ça à Hiroshima, c'est-à-dire qu'on tue le peuple en masse, en espérant que, excédé d'être tué, le peuple va se révolter contre ses dirigeants et les obliger à capituler. Or, ça marche pas. Ça marche jamais. Il y a que les Américains pour qui ça marche, probablement. Ils pensent que ça marcherait chez eux, probablement parce qu'ils savent pas ce que c'est que l'esprit de résistance. Mais ce qui s'est passé en Serbie, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire des gens qui, comme mes amis royalistes serbes, étaient des anti-Milosevic fanatiques, sont devenus, au moins pendant la durée des bombardements, des gens qui ont dit « Union sacrée, on ne prend pas position contre le pouvoir serbo-bolchevique, tout simplement parce que c'est le pouvoir qui... ce sont nos frères qui sont... Même si ce sont nos adversaires politiques, ce sont nos frères de race, nos frères de sang, nos frères de chair, nos frères d'histoire qui sont au pouvoir. Et donc, on se tait.
D'ailleurs, à chaque fois que les Américains sont intervenus pour faire des expéditions punitives, que ce soit dans le cas de Kadhafi en 86, dans le cas de Saddam Hussein en 90 pendant la guerre du Golfe, ou dans le cas de Milosevic actuellement, les trois sont encore en place au gouvernement, donc ils n'ont pas réussi leur opération.
Oui, mais là, c'est pour une autre raison. C'est parce qu'ils les ont...
Ils les ont tellement diabolisés qu'ils n'ont pas intérêt à avoir un ennemi.
C'est pas du tout pour ça. Je crois pas du tout que ce soit pour ça. Je crois qu'aussi bien Saddam Hussein que Milosevic, pour l'autre, je sais pas, mais pour ces deux-là, je sais d'une façon quasi certaine que c'est parce qu'ils ont été mis en place par l'ordre mondial et ce sont des chefs d'État Kleenex. Et pour l'instant, on ne veut pas du tout qu'ils s'en aillent parce qu'ils rendent encore bien des services.
Oui, mais c'est ce que
dans
je
le cas de Milosevic, par exemple, on sait, Jean Ferré l'autre lundi disait que il venait d'apprendre par le général Gallois les affaires bancaires de Milosevic, mais je regrette qu'il n'ait pas lu le Libre Journal parce que c'était raconté en toutes pièces, en toutes lettres dans le Libre Journal. L'homme qui a littéralement volé l'argent des Serbes pour le compte de Milosevic, car c'est ça qui s'est passé, une fois son forfait accompli, a quitté la Serbie pour se réfugier en Israël. Et depuis, il a quitté Israël pour partir en Amérique du Sud, où il est encore chargé d'affaires commerciales d'un dictateur sud-américain. Or, on sait très bien que ce type, c'est un type qui appartient au gang de monsieur Soros, et qui est un homme qui est chargé de corrompre les chefs d'État pour les mettre à la botte de l'ordre mondial.
Il y a aussi quelque chose qui est sûr, Serge, c'est qu'on ne tue pas le diable. Et qu'à partir du moment où ils ont diabolisé Milosevic, il faut surtout pas qu'il y ait quelqu'un qui remplace Milosevic, parce qu'à ce moment-là, ils auront affaire à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. À partir du moment où ils diabolisent Milosevic, ils ont intérêt à ce que Milosevic reste sur place.
C'est exactement.
Au moins, ils le contrôlent, ils le maîtrisent.
Voilà, ils le maîtrisent.
Deux opinions contraires de deux auditeurs. Les Français doivent tous s'allier à droite pour sortir du marasme dans lequel les socialistes nous ont mis. Et d'autre part, bravo d'attaquer Pasqua qui est un imposteur. Il a sa part dans l'invasion de notre pays par des gens qui se comportent comme des sauvages. J'ai une autre opinion sur Monsieur Pasqua. N'oublions jamais que le SAC fut créé en 1958, je pense, par Focard, Fray, Ponchardier, Sanguinetti, Bozzi, Comiti et Charles Pasqua. Cela n'effarouche-t-il pas le vicomte, je ne sais pas son nom complet,
de Villiers. Non, mais je crois que, bon, oublions le vicomte de Villiers, parce que c'est évident que dans cette affaire, l'alliance, parce que de Villiers, elle va durer ce que durent les roses, et pas quand elles sont en fer forgé. J'ai entendu Pasqua l'autre jour qui disait à propos de Devilliers, il est resté à mes côtés pendant toute cette campagne. À mon avis, ça n'augure pas bien de l'avenir de leur association. Parce que s'il croit que Devilliers va se comporter comme son Shabbat Goy ou comme son Larbin, à mon avis, il se met le doigt dans l'œil. C'est pas comme ça que Devilliers doit concevoir la chose. Devilliers, lui, doit croire de toute bonne foi qu'il est à égalité de responsabilité et de partie pris dans le succès. et il ne doit pas s'attendre à être considéré de cette façon-là. Je ne suis pas certain que ça lui ait fait plaisir d'avoir cette espèce de coup de chapeau de M. Pasqua qui lui a dit « M. De Villiers a été bien gentil, il m'a bien servi pendant toute la campagne, et puis maintenant il va rentrer dans son, oui. dans son trou, il va nous foutre la paix ». À mon avis, ce n'est pas ça. C'est pour ça que je crois que tout ce qui... tous les débats politiques qui tournent autour de la fondation d'un nouveau parti, du RPF, qui va bouleverser la carte politique française, tout c'est du pipeau. Je vous rappelle que De Villiers tout seul, il a fait mieux que De Villiers Pasqua en 1994.
Et qui n'a rien fait. Il aurait pu s'enchevêtrer à nous, par exemple.
Il a fait mieux que Pasqua.
Je dis nous, le Front National.
Et quand il a ensuite essayé de monter son mouvement pour la France, c'est ça, c'était le mouvement pour la France.
Que nous.
Le mouvement que
De Villiers avait essayé de lancer. Je ne me rappelle pas.
Eh bien, ça n'a pas pris. Parce que les gens qui votent aux les électeurs qui votent aux européennes ne votent pas, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, pour élire un parlementaire européen, un parlementaire français. Contrairement à ce que M. Miguet a essayé de faire croire, on ne vote pas aux européennes pour faire baisser les impôts en France. Parce que ça s'appelle une imposture. Ça s'appelle un mensonge. Quand on dit je vais faire baisser les impôts en France en étant député européen, on se fout de la gueule du monde. Je suis désolé de le répéter.
Ça, c'est grandiose.
Mais c'est grandiose de conneries, enfin.
1,8% de...
Ah oui, eh ben, voilà. Ah, voilà. Voix, ouais. Eh ben, voilà. Je pense que ça, c'est plutôt même rassurant, vous voyez. Je croyais qu'il serait beaucoup plus nombreux que ça.
Hier matin, j'avais rendez-vous à l'Hôtel Dieu, à 9h, et je suis passée seulement à 1h de l'après-midi, parce qu'il fallait soigner les urgences consécutives aux violences de la nuit de la musique. J'ai vu quelques victimes et ce n'était pas beau.
Oui, eh ben écoutez, je vais vous dire ce que j'en pense. Moi, la nuit de la musique, depuis des années, je ne sors pas de chez moi. J'interdis à mes fils, quand ils vivaient sous mon toit, je leur interdisais de sortir de la maison, cette nuit-là, et même bien après leur majorité, parce qu'on ne se promène pas dans une ville qui est livrée aux mains de fauves fous furieux. On ne fait pas ça, c'est pas raisonnable. Donc la nuit de la musique, vous restez chez vous. Dans présent d'ailleurs, Caroline Parmentier raconte qu'un chauffeur de taxi lui dit « Moi je ne sors plus jamais ce soir-là, et la plupart de mes collègues font de même, pour me retrouver à 2h du matin en banlieue avec un couteau sous la gorge parce que des jeunes que j'ai chargés à Paris ne veulent pas me payer, merci, j'ai déjà donné, ce soir-là, la rue leur appartient. » Donc s'ils s'entretuent entre eux, tant mieux.
Surtout, ce qui est extraordinaire, Serge, c'est que hier soir ou avant-hier soir, sur TF1 ou France 2, je ne sais plus, sur l'une des deux chaînes, on nous a parlé des scouts qui étaient inféodés à l'extrême droite néo-fasciste, catholique et traditionaliste, et on y a consacré 10 minutes, mais il n'y a pas eu une seule seconde où on a parlé des dévastations qui ont été produites par des jeunes beurs ou par des jeunes qui, à Paris, ou dans les banlieues parisiennes, ou en France, dans sa totalité, ont pu commettre à la fois des crimes, des cassages ou autres. Donc, c'est extraordinaire.
Émission, je reviens, j'ai déjà dit ça à ce micro, je le dirai encore 1000 fois s'il le faut. Il ne faut jamais recevoir les journalistes de la presse et de la télévision menteuse. Jamais. Il ne faut pas leur parler, il ne faut pas les laisser entrer. Je l'avais dit au père Argouache. Je lui avais dit, père, ne les laissez pas entrer, Ariomont. Ces gens-là sont des ordures. Ils vous piégeront, mais c'est évident, ils viennent là pour ça. Et alors lui, avec cette extraordinaire clarté d'âme, il me dit, mais ils pourront rien filmer de méchant puisqu'il se passe rien de mal chez nous. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont filmé la prière. Ils ont filmé la prière avant le déjeuner, la prière avant le dîner, la prière du lever. Et puis ils ont fait un montage ultra rapide de ces prières et ils ont dit, on les abrutit ces enfants, on passe son temps à les faire prier, on les enferme dans un réseau de fanatisme religieux et tout. Mais évidemment, voilà la technique. Il faut pas recevoir ces gens-là, c'est tout. Première chose. Deuxièmement, il ne faut pas écouter, il faut pas regarder ces émissions. Si on n'est pas obligé de le faire pour des raisons professionnelles. Et troisièmement, si on regarde ces émissions, il faut noter les annonceurs qui passent de la publicité avant l'émission, pendant l'émission, après l'émission. Et il faut faire savoir à ces annonceurs ce qu'on pense du fait qu'ils ont subventionné une opération de désinformation, de calomnie et de mensonge, et qu'on réagira en fonction de ça. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on agit d'une façon militante et résistante. Autrement, c'est pas la peine. Et il faut ou alors faire le travail que fait Rémi Fontaine encore une fois dans le présent, qui souligne tranquillement une chose que personne ne dit jamais. Il dit voilà, il y a eu une déclaration conjointe des éclaireurs et éclaireuses de France, éclaireuses et éclaireurs israélites de France, éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, guides de France, scouts de France, scouts musulmans de France, qui ont rendu publique une déclaration. Déclaration dans laquelle ils disent « Nous nous engageons tout au long de l'année à permettre aux enfants de bâtir leur projet dans un esprit d'ouverture au monde et de respect démocratique, patin couffin, etc. 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 » Et ils disent « Indépendants et non politiques, ouverts à tous sans discrimination de religion, d'origine sociale ou de sexe. » Or, en ce qui concerne la religion, le père Argouache qui s'était présenté à cette réunion a été viré. Et en ce qui concerne les refus des discriminations de sexe, Rémi Fontaine fait remarquer ce petit détail qui échappe apparemment à tout le monde, c'est que dans la liste que j'ai donnée, éclaireuse et éclaireur de France, éclaireuse et éclaireur israélite, éclaireuse et éclaireur unioniste, éclaireuse guide de France, enfin éclaireuse plutôt guide de France, qui sont des filles, scout de France et scout musulman de France, il n'y a pas d'éclaireuse et il n'y a pas de guide musulman. Parce que ça n'existe pas, tout simplement. Donc ces gens qui disent qu'ils vont faire quelque chose contre la discrimination du sexe, la première discrimination qu'ils font, c'est qu'il n'y a pas de troupe féminine chez les musulmans. C'est encore une fois une imposture. Allez, on a dit assez de bêtises. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes de chez les auditeurs ?
J'ai pas encore lu.
Bon, bah, lisez. Jean Parbulesco, pardon de vous avoir fait attendre pour prendre la parole, mais est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette actualité que j'ai évoquée ? Est-ce que vous avez envie d'en parler ? Est-ce que non ?
Un commentaire qui survole l'ensemble des faits, parce que il y a tellement de d'entailles criminelles dans la réalité au jour le jour que c'est impossible de se pencher là-dessus à moins d'appartenir à des services spécialisés. Ce que je retiens, c'est que la fuite en avant vers l'abîme s'accentue avec chaque jour qui passe et que finalement à moins de désespérer, il ne reste plus qu'un choix révolutionnaire à faire à un double niveau, au niveau de la confiance qu'il faut faire à tout prix quant à la direction providentielle de la vie et de l'histoire, et aussi et surtout quant à la nécessité de plus en plus aiguë de la mise en place des structures de défense offensive de la part de nous autres qui nous trouvons dans une situation d'élimination finale.
Alors Jean-Pierre Vuillesco, je vous ai demandé de venir parce que là, je crois que vous venez de résumer en quelques phrases ce qui est le contenu de toute votre œuvre depuis de longues années, mais en tout cas depuis au moins 30 ans, et en tout cas certainement depuis 20 ans, puisque depuis 20 ans, vous avez publié un nombre impressionnant d'ouvrages. Qui sont pas des ouvrages faciles, souvent, il faut le dire, Arnaud.
Ce sont des ouvrages qu'il faut décoder, qu'il faut déchiffrer.
Alors, on va les évoquer en commençant par le dernier paru, ou le dernier apparaître, je sais pas ce qu'il faut dire, qui s'appelle Un bal masqué à Genève. Il est pratiquement publié.
Il se peut qu'aujourd'hui. Qu'à l'heure où nous en parlons, il soit déjà arrivé. Voilà. Donc,
chez Guy Trédaniel.
Oui, alors tous les titres que je vais citer sont parus chez Guy Trédaniel, et quand ça sera pas le cas, je le dirai. Alors, juste avant, vous avez publié « La conspiration des noces polaires », qui est un livre au titre admirable, et pas seulement le titre, et qui a fait un certain bruit, on peut le dire, quand il est paru, parce qu'il a surpris, il a étonné par son contenu. Avant, vous aviez publié « Versailles ». Avant, vous aviez publié « Le retour des grands temps ». Avant cela, « Le guet des louves ». Avant cela, « Rapport secret à l'annonciature », qui est encore un livre qui a fait, lui, beaucoup de bruit dans certains milieux, comme on dit. Avant, vous aviez...
Oui, je pourrais dire oui. Qu'il s'est produit un fait assez, à la fois extraordinaire et tout à fait significatif. Pour le livre concernant l'annonciature.
Le rapport secret à l'annonciature.
Le rapport secret à l'annonciature. J'ai eu deux correspondances. L'une de l'annonciature elle-même, qui me mettait en garde contre le contenu soi-disant anticatholique du livre. Et deux ou trois jours après, une lettre émanant également l'annonciature qui m'en félicitait.
Il y en a peut-être un qui a été fait de la main gauche et l'autre du pied droit. Ou
ouais, c'est étonnant.
Ça, c'est un signe de, contradiction.
Tout à fait. La contradiction est présente partout.
Comment résumer votre œuvre ? J'ai envie de dire moi, mais vous allez certainement me corriger ou me remettre dans le droit fil. J'ai envie de dire que on a l'impression que c'est le résultat d'une d'un accouplement, je dirais d'une fécondation du roman d'espionnage par le par la littérature spirituelle et mystique. Est-ce que vous partagez cette, est-ce que ça vous choque si je dis ça?
Non, pas du tout, parce que finalement, c'est un choix responsable et tout à fait volontaire de ma part. C'est en quelque sorte par défi. La littérature dite d'espionnage policière est réputée essentiellement subalterne. Et l'état actuel des littératures européennes étant lui-même en état de faillite totale, j'ai essayé d'opérer une sorte de renversement significatif en prenant les polars comme un stade supérieur.
C'est vrai que quand on lit vos livres, on a l'impression que vous êtes détenteur de ou dépositaire de secrets quant à la réalité cachée des événements que nous traversons, et que ces secrets sont pas seulement, comme c'est le cas dans les romans d'espionnage, des secrets techniques ou des secrets de police, mais des secrets qui relèvent de l'aspect caché de la réalité, de la transcendance. Je veux dire par là que on a l'impression que le monde, et quand vous parlez de conspiration des noces polaires, on a l'impression à vous lire que il y a deux gigantesques conspirations qui s'affrontent, une conspiration du bien et une conspiration du mal, et que cet affrontement se manifeste d'une façon brutale et presque, je dirais presque, quel est le mot, trivial, alors même qu'il s'agit d'un affrontement eschatologique, d'un affrontement dans les hauteurs béantes, comme aurait dit Zinoviev.
Mais vous connaissez une citation de Pascal qui dit que le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde. Je veux dire que la partie qui a été gagnée le matin de Pâques est une partie qui a été gagnée en principe, in principium. Mais en fait, le combat continue par en dessous. Donc jusqu'à l'instant même du retour du Christ, la situation de l'histoire est conflagrationnelle. Il y a un affrontement permanent à un double niveau. Au niveau de l'histoire visible, où successivement il y a des affrontements entre des forces qui se lèvent, qui émergent pour le compte du mal, et auxquels font face, avec des fortunes diverses et de moins en moins actives, les puissances dites du bien. Ces affrontements se consomment et ensuite d'autres émergent. Donc jusqu'à la fin, cette bataille sera d'actualité et c'est ce qui constitue les fondations ultimes de l'histoire en marche. Mais en même temps, il faut savoir que ce qui se passe au niveau de l'histoire n'est en fait que la projection de ce qui se passe dans l'invisible. Parce que il y a un passage de saint Paul extraordinairement important, où il dit que ce contre quoi nous combattons, c'est-à-dire les forces du bien, ce n'est pas contre les puissances du sang ou de la terre, mais contre les puissances qui agissent dans l'invisible et sur les hauteurs, donc contre la perpétuation de l'action du prince des ténèbres.
Jean-Paul Villesco, je vais vous faire une proposition et vous demander une autorisation en même temps. L'autorisation que je vous demande, c'est d'interrompre notre entretien pendant quelques minutes pour me tourner vers Marie-Antoinette Milhaud pour une raison pratique. D'abord parce que Marie-Antoinette, je l'adore et je suis contente de la voir. On ne se voit jamais.
Bonjour.
Ma petite Marie-Antoinette.
Et oui, mais moi j'ai de vos nouvelles très souvent et je sais que vous toussez encore un peu.
Ah oui,
et je ne sais pas ce que je devais
faire.
Pourtant,
alors qu'est-ce que je prends comme.
Je ne sais pas ce que je devais faire.
Comme lapin chaud.
Oui, lapin chaud. Je vais devenir un chaud lapin.
Oui. Et puis, la deuxième raison, c'est que Marie-Antoinette a un avion à prendre.
Donc, je repars dans ma Camargue.
Elle regagne ses terres amphibies. Et donc, je vais parler avec elle. Encore que les gens qui vous aiment ont pu vous entendre ce matin sur Europe 1, c'est ça?
Oui, je suis passée ce matin sur... après-midi, de 2h à 4h.
Donc, ça marche fort, hein?
Heureusement, parce que je ne suis pas venue depuis plus d'un an.
Bah, voyez, vous en pas oublié.
J'ai un bras qui ne marche plus et j'ai surtout une jambe à faire opérer. Bah, alors, et comme j'aurai pour 3 mois de clinique,
il faudra vous faire. Je vais vous donner l'adresse d'une très bonne herboriste qui vous donnera.
Mais là, c'est quand les os sont mangés, ils sont mangés.
Ah bon.
Remarquez que si
c'est votre chien qui vous a mangé, vous.
Non, le chien m'avait mangé le bras et le genou, ce sont des chutes de.
Le cheval.
Ski et cheval, voilà.
Excusez-moi de vous dire, à 25 ans, il faut arrêter le cheval.
Voilà, justement, il y a encore 4 ans, et j'en ai 80, il y a encore 4 ans, je montais à cheval.
Alors, dites-nous un peu, quelle est votre dernière production?
C'est-à-dire que je viens de mettre au monde, c'est un nouveau-né.
Il s'appelle 80 ans, c'est pas mal quand même.
Justement, mais vous savez, je prends des hormones. La santé de vos enfants par les plantes. C'est encore édité par les éditions du Dauphin.
Ouais.
Et ce livre m'avait été demandé par les mamans, que je vois qui sont nombreuses, pour éviter les antibiotiques chez les enfants. Mm-hmm. Parce qu'il y a des souches de résistance, comme pour les poux.
Bien sûr.
Souches de résistance, par exemple, vous prenez la rougeole, avant on l'avait qu'une fois. Maintenant, évidemment, c'est une grand-mère qui parle pour les petits-enfants. Et je pense que ça rendra beaucoup service, aussi bien aux médecins qui sont dérangés pour des bêtises, qu'aux jeunes mamans et qu'aux futures mamans.
Mais est-ce qu'on trouve encore... parce que vous êtes la dernière herboriste.
Je suis la plus là, jeune.
Plus jeune.
je suis contente, je viendrai avec moi là-haut, fait des soquettes la prochaine fois.
Oui, ça sera mignon, t'es duplicée et tout, vous allez les rendre.
On ne verra pas la jambe, on la verrait trop, quand je serai opérée.
Alors, comment peut-on faire maintenant, pour à part vous, est-ce qu'il y a...
Il en reste encore une dizaine d'herboristes, des vrais.
Et je crois qu'il avait été vaguement question à l'époque de tonton,
oui,
de
réautoriser. Oui, c'était Georgina Dufoy et monsieur Mitterrand. Oui. Ça a été abandonné. J'ai une lettre la semaine dernière du ministre de la Santé qui dit que les pharmaciens sont susceptibles de faire notre travail, donc on n'a pas à le faire. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est réformer les études de pharmaciens, parce qu'ils ne font que 90 heures, je crois, ou quelque chose comme ça, de botanique médicale. Nous, on a quand même 3 ans de faculté et 1 an de stage.
Non, mais si c'est pour vendre des gélules avec des poussières dedans, c'est
disponible. Ne me dites pas ça, je n'en ai jamais prise.
Ben voilà.
Je suis un peu comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Le bon Dieu nous a fait des plantes, il n'y a pas de raison de prendre autre chose. Le fait de prendre la plante, déjà, de la mettre de toucher la plante, il y a déjà une entente cosmique entre la plante et nous. Donc je ne vois pas pourquoi on va se faire des gélules, manger des trucs qui sont autour, non. Par contre, je ne suis pas contre les médicaments de synthèse. Je prends des gélules de médicaments de synthèse.
Alors, une question que je vais vous poser depuis longtemps.
Oui.
Est-ce qu'on découvre encore des herbes qui deviennent des herbes médicinales?
Évidemment, puisque vous venez de me parler du lapacho, il n'y a pas longtemps qu'on le connaît.
Ah, voilà.
Je l'ai connu il y a 12 ans. Il y a le lapacho, il y a le kawakawa, maintenant il y a l'acérola, le bacaris. Il y a plein de plantes qui viennent de la forêt amazonienne.
Et alors comment on découvre qu'elles ont des capacités?
Eh bien, je suis allée à l'ambassade du Mexique à Paris, il y a 8 ans à peu près, et je n'avais pas le droit, j'ai pris le gauche, et j'ai demandé les renseignements concernant les plantes médicinales de là-bas, parce qu'ils n'ont pas les mêmes maladies que ce que nous avions. On m'a envoyé toutes les thèses dont j'avais besoin, et j'ai fait mon livre, Plantes oubliées, plantes mystérieuses. C'est là que j'ai découvert le fameux lapacho. Mmh. Et beaucoup de plantes qui sont très intéressantes dans des cas de maladies très graves et dont on ne parlait pas. J'en ai parlé au grand laboratoire parce que moi je n'avais pas les moyens suffisants pour le faire connaître au grand public. Eux avaient des possibilités de faire des AMA, autorisations de mise sur le marché, et ça a très bien marché. Ça ne m'empêche pas, moi, dans mon petit coin, de faire mon petit travail de fourmi et de faire mes petites plantes que nous prenons en infusion.
Est-ce que, puisque vous consacrez votre dernier livre à la santé par les plantes pour les enfants, est-ce que vous avez remarqué que les parents qui vous consultent font état de troubles, de maladies, d'affections différentes de ce que vous pouviez constater il y a 10, 15, 20 ans?
Il y a beaucoup de gastro-entérite. Il y a beaucoup de gastro-entérite.
C'est peut-être la dioxine dans le poulet, le Coca-Cola et qui non?
On ne sait pas ce qu'il va bientôt falloir manger, vous savez.
Peut-être le McDo qui fait ça.
C'est possible. Ouais. Moi, je mange les œufs de mes poules. Lorsqu'elles meurent, on les enterre.
Tout le monde ne peut pas avoir des
poules. J'ai mes poules, je suis content d'avoir des oies, des poules et des cannes.
Qui pondent.
Nos bêtes sont en liberté.
Donc,
vous savez, la Camargue, c'est le pays de la liberté.
Beaucoup de gastro-entérite. Oui, mais elles se nouent, vos poules, non? En Camargue, non?
Non, mais pas chez nous. Nous avons fait des murs parce que nous avons des personnages qui rentreraient peut-être alors qu'ils n'ont pas le droit de rentrer.
Ah, bah, allez savoir.
Vous savez très bien qu'à Saint-Gilles,
tout est possible. Ben oui, il y a même eu un maire Front National à Saint-Gilles. Si vous dire l'insécurité du lieu. Donc, gastro-entérite.
Il y a beaucoup de. Alors, surtout la nervosité, les cauchemars. Nervosité et cauchemars.
Ils sont plus conscients que les adultes.
Je pense qu'ils entendent les adultes parler de politique, parler de tout. Actuellement, les parents ne devraient pas parler de Paco Rabanne. Je suis persuadée que les enfants entendent les conversations.
Je crois qu'actuellement, personne ne veut parler.
On ne devrait pas en parler. Donc, les enfants entendent ces trucs-là, et ça ne m'étonne pas qu'ils aient des cauchemars.
Jean Parville, est-ce que je vous pose la question, parce que c'est, si j'ose dire, un peu votre domaine, même, de, même d'une façon incomparablement plus élevée.
Oui.
Est-ce que vous avez entendu les propos de Paco Rabanne? Est-ce que vous avez, ne serait-ce que parcouru?
Non, pas du tout, mais je crois que c'est vrai qu'il s'agit d'un imbécile.
Ah bon,
total.
Tant mieux.
Automitomane.
Vous pouvez pas parler d'une façon moins retenue. Vous pouvez pas dire les choses plus clairement.
Non, mais ce n'est même pas la peine d'en parler.
Oh. J'avais été invité il y a 3 ans à une croisière. Je devais faire des conférences et il y était. Mon fils m'a dit ne va pas là-bas, tu reviendras folle.
Mais ce qui est curieux, c'est qu'il a pris quand même un risque formidable parce qu'il annonce la fin du monde pour le 11 août. Donc le 12. Où il ne peut pas gagner, parce que le 12, où il est mort, où il a l'air d'un...
Il a donné congé à tout son personnel.
Mais non, peut-être
et lui sera à Marseille.
Il sera à Marseille, c'est Paris, c'est pas
alors,
tout.
Il sera à Marseille, c'est Paris qui sera démoli.
C'est Paris.
Paris, le Gers. Allez, adieu le foie gras.
Oui, ça,
c'est dommage quand même.
C'est pas pardonnable, ça. Paris et le Gers.
C'est dommage. Mais voilà.
La alors, donc, nervosisme.
Oui, nervosisme.
Cauchemar.
Cauchemar. Et gastro-entérique. Parce que je crois qu'on mange beaucoup. Les enfants adorent aller chez McDo, justement, vous en parliez. Bon, seulement il faut qu'ils mettent un frein, qu'ils ne mangent pas trop. Quand ils sont là-bas, ils se goinfrent, puis voilà, alors peut-être bien que c'est ça.
Je crois que c'est plutôt les parents qui devraient mettre un frein. Au sens où on met un frein aux chevaux, c'est-à-dire leur mettre des anneaux dans la bouche pour les empêcher
d'aller. On ne met pas dans des anneaux, on a nos chevaux, nous. Moi, j'ai 3 chevaux, ils n'ont pas d'anneaux.
Mettez des freins dans la bouche des chevaux.
Oh, non.
Dites-moi, vous savez qu'hier, j'ai voulu vérifier, je suis allé manger chez McDo. C'est terrifiant. Hein.
On mange trop.
C'est hallucinant.
Alors, c'est pas le moment d'y aller. C'est,
hein?
C'est pas le moment
d'y aller. Mais si, je vais faire l'expérience.
Parce que j'ai une bonne tisane, elle s'appelle obésité.
Mais pourquoi vous dites ça, moi?
Ah non, mais pour ceux qui vont chez McDo.
Ah bon, d'accord, ça, on peut.
Pour ceux qui vont chez McDo, je devrais me mettre à la porte avec un banc et je vendrai une tisane obésité. Là, au moins, je gagnerai ma vie.
Alors, les enfants donc, dont vous nous parlez, enfin à qui vous vous adressez plutôt, ou parents desquels vous vous adressez pour leur recommander des diverses potions, est-ce qu'ils se traitent comme les adultes? Est-ce qu'on ne parle pas des quantités, mais les produits
mais les produits sont presque identiques à ceux des adultes. On fait attention que les tisanes ne soient pas trop amères quand même. Si elles sont trop amères, c'est pas très agréable. Mais vous savez que les enfants maintenant viennent dans le magasin, avant il me disait, il y a encore 4 ou 5 ans, il me disait, qu'est-ce que ça pue dans ce magasin? Maintenant, quand il rentre, il disait, oh, ça sent la campagne.
Tiens.
Donc, il y a quand même un retour. Ah, je ne peux pas dire vers Cro-Magnon, ça irait trop loin. Et vous savez
que... Ça ne va pas tarder, vous savez ce que c'est Churchill qui disait, je ne sais pas avec quoi on fera la 3e guerre mondiale, mais je sais que la 4e, on la fera avec des pierres et des bâtons.
Et je vous assure, franchement, quand les chiens se perdent dans la rue, ils reniflent autour dans la rue, quand on laisse le magasin ouvert, ils viennent, j'ai ramené des chiens à la SPA qui avaient perdu leur maître et qui étaient rentrés chez moi attirés par l'odeur de l'herbe. Les gens reviennent aux plantes, ils aiment l'odeur.
Je me serais attendu à ce qu'ils rentrent plutôt dans une boucherie qu'une herbe.
Non, pocheur. Mais à McDonald's, Serge, vous devenez goinfre. Non, ils rentrent chez moi facilement.
Est-ce que vous recevez beaucoup de courriers?
Ah oui. Je reçois beaucoup de coups de fil, beaucoup de courriers. Quand mon livre est paru, c'est le 24 avril qu'il est sorti. Le lendemain, j'ai eu 76 coups de fil. Alors évidemment, j'ai qu'une
ligne. Ils ont de la chance de pouvoir vous joindre, les gens, parce que moi, j'y arrive jamais.
Non, mais c'est vrai, j'ai un répondeur entre midi et 3 heures, sinon c'est épouvantable. À partir de 7 heures, je ne réponds plus non plus, parce que pour une crise d'épilepsie chez un chien, par exemple, on n'a pas hésité à me réveiller à 2 heures du matin. Bon, je crois que c'était mon fils, j'ai répondu. J'ai dit, mais aucun vétérinaire ne vous vendra, vous donnera quelque chose. Moi, je ne suis pas. Ils étaient loin de chez moi. Ils venaient demain matin, à la première heure, je vous le donnerai. Mais en pleine nuit, je n'allais pas me lever, ces gens n'allaient pas venir du zeste jusque chez moi, parce que le chien, ici, il avait un gardénal qui donne un gardénal, et voilà.
Un chien épileptique.
Oui.
Il n'y a que vous pour avoir des histoires.
C'est tout ce que j'ai. Quand j'ai fait mon émission sur la peau de Azizi, ça a été affreux.
Ah oui, mais ça, c'est pas le genre.
Ça a été terrible.
C'est pas le genre de cette radio.
Là. Non, mais justement.
Là, il faut garder ça pour les radios périphériques.
Oui, mais justement, ça a été. On a coupé le téléphone pendant 2 jours. Alors, je garde ça, moi, c'est la rougeole, ce sont les maladies de maintenant, ce sont les coups de soleil, avec l'huile de millepertuis, qui n'empêche pas le coup de soleil, mais qui enlève la rougeur et qui enlève. C'est beaucoup de choses intéressantes pour les enfants et pour les jeunes mamans.
Là, on entre dans l'été, il va y avoir du soleil. Alors, donc, qu'est-ce que vous nous recommandez pour cet été spécialement?
Eh bien, je vous recommande de faire de l'huile de ménopertuis, mais de ne pas la passer et d'aller au soleil. Vous la passerez sur vous quand vous reviendrez du soleil. Parce que ça ne vous empêchera pas le coup de soleil.
D'accord. Il n'y a rien pour empêcher le coup de soleil, à part celui de rester à l'ombre.
Un chapeau. Voilà.
Donc, pour les brûlures, huile de ménopertuis. Pour les piqûres de moustiques?
Contre les piqûres de moustiques, c'est l'huile essentielle de géranium. Et puis je fabrique pour faire partir les moustiques. Je fabrique un baume cicatrisant apaisant que l'on passe dessus et qui calme.
Calme les piqûres de moustiques. Ça va être les grands succès de l'été.
Ben, c'est-à-dire que vous savez, les moustiques maintenant, on démoustique tellement, les hirondelles même en meurent. Tellement de moustiques en Camargue, on devrait en laisser quelques-uns pour faire manger les martinets et les hirondelles. Tellement.
Voilà. Un ciel sans oiseaux, c'est en plus, preuve. Quand ces jeunes sont pas sages, on devrait les envoyer en Camargue pour nourrir les moustiques. Ça serait bien.
Qu'est-ce qu'il est méchant aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il a fait?
Est-ce que vous avez peur en avion?
Ben non.
Non. Qu'est-ce que vous prenez pour pas avoir peur en avion?
Ben je prends rien.
Rien du tout.
Je me suis levé à 4 heures ce matin pour venir. Ah, et j'ai même pas déjeuné.
Incroyable. Vous êtes un sacré.
Et je pars à 11 heures ce soir.
Et quand quelqu'un a peur en avion, qu'est-ce qu'il doit prendre?
Eh bien, il doit prendre ce que j'appelle le mal des transports, peut-être, ou alors un calmant, c'est-à-dire de la valériane, avant de partir, un peu de valériane, de la passiflore et de l'aubépine. C'est un calmant.
Vous l'indiquez, ça, dans votre dernier livre?
Mais pas dans celui-ci, dans le secret d'une herboriste, je l'indique. Ça, c'est pour les enfants. Je ne parle pas du mal des transports. Là.
Alors, ça s'appelle donc la santé
de vos enfants par les plantes. Regardez si vous voulez. Je fais du reste, avec la bénédiction des médecins, parce que chaque fois je dis secret de grand-mère, je donne mon secret, enfin, mon conseil, et quand il le faut souvent, je dis, il est absolument indispensable d'avoir recours à votre médecin. C'est pour ça que le corps médical m'aime bien quand même, parce que je ne les mets pas de côté.
Ah, puis c'est autorisé, votre activité, ce n'est pas rien de criminel.
Non, mais enfin, vous savez, il y a eu tellement de charlatans, on a tellement de sottises sur les plantes qu'il vaut mieux parfois ne plus en parler.
Alors voilà,
conservez-le.
Merci. Dans la collection Les secrets d'une herboriste, de Marie-Antoinette Mulot, avec une jolie photographie.
J'étais moins fatigué que maintenant, j'avais ma jambe entière.
Vous étiez en pleine forme, mais ça va revenir. La santé de vos enfants par les plantes, aux éditions du Dauphin. Oui, il y a des questions.
J'ai quelques petites questions.
Bah oui, des
coordonnées. Peut-on soigner l'épilepsie, donc, que vous en avez parlé, avec des plantes?
On peut soigner les crises épileptiformes avec des plantes, chez les gens et chez les animaux.
Peut-on avoir les coordonnées de Mme Mulot?
Alors, ça, vous les donnez.
Où cela se trouve-t-il,
Saint-Gilles?
J'ai une idée. Je réponds à toutes les lettres.
Hein. Moi, j'ai une idée. Ah, si vous répondez à toutes les lettres, je vais vous faire une proposition. Mais or, je vous ferai ça hors antenne. Bien. On ne va pas embêter les
Je pense qu'elle est honnête, cette proposition.
Ah, tout à l'heure.
Parce qu'à mon âge, je ne dois pas abuser.
Et au mien, donc.
Merci de votre superbe accent, Madame Mulot.
C'est vrai,
Et si on voyait mes boucles d'oreilles, il serait encore plus content. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que j'ai comme boucles d'oreilles?
Je ne sais pas.
Qu'est-ce que c'est donc ça? C'est une fleur. Non, je ne sais pas ce que
c'est. C'est une tête de taureau.
C'est une tête de taureau. Mmh. C'est beau, dites donc.
Hein, ça vient de. C'est la croix.
Ah, elle est magnifique.
Ma croix, c'est pareil.
Pourquoi, Madame Mulot?
Très belle boucle d'oreille.
Pourquoi Madame Mulot ne passerait-elle pas une petite rubrique dans le Libre Journal de la France pour
Mais ça fait longtemps que je vais proposer
la
temps.
Il y a longtemps qu'on en parle, mais j'ai tellement écrit des bouquins.
Voilà. Je vais piquer dans ces bouquins.
Serait-il possible de remplacer la pharmacie d'urgence allopathique par une trousse naturelle?
Pourquoi pas? Mais on me demande, vous savez, il faudrait évidemment... J'ai le baume cicatrisant et apaisant, j'ai le complexe aromatique que je fabrique, qui est comme une sorte d'huile essentielle pour renifler, contre la sinusite, dont se servent certains professeurs de Brousset pour faire des nettoyages de sinus à de grands chanteurs. Je ne peux pas dire les noms, ça serait de la publicité...
Moi, ça ne me gêne pas du tout. Ça, si vous voulez dire les noms des chanteurs, c'est pas ça qui me décidera à suivre, ni à chanter. Je vois pas pourquoi le fait que chanteur prend tel produit me décidera à prendre ce produit.
Non, mais c'est une huile que je fabrique à base de 7 plantes huiles essentielles et qu'on fait renifler aux enfants. J'avais fabriqué ça pour le coryza des chats, des singes, des chiens et des perroquets. Et comme je l'ai fait essayer à mes clients, ils ont été ravis. Alors, un enfant qui a fait une allergie ou qui a un rhume, on le fait renifler ce mouchoir, un peu Kleenex avec ça dessus, on le met dans le petit pyjama et le lendemain matin, il n'y a plus rien.
Vous voyez, Serge?
Voilà, je vais mettre ça dans mon pyjama.
Comment se préserver des dangers alimentaires qui nous menacent actuellement?
Ça, c'est difficile.
Il faut arrêter de manger n'importe quoi.
Que pensez-vous du maté?
Le maté,
est-ce bon ou est-ce de la blague?
Non, le maté, c'est quelque chose qui fluidifie le sang. Du reste, dans ma tisane circulatoire, je mets amamélis, coudrier, millefeuille, vigne rouge et maté. Ça fluidifie le sang. Quelqu'un qui a des ennuis de circulation, qui a les jambes lourdes, qui a les jambes enflées, peut prendre de ma tisane circulatoire avec du maté dedans.
Quel traitement préconisez-vous pour tuer les parasites intestinaux, ténia, oxy,
ah ben, les ténia, pour contre les ténia, ce sont les graines de courge.
Ce qui fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la masse de connaissances de Marie-Antoinette Milot. On peut lui poser n'importe quelle question, la réponse vient instantanément.
Ben, j'ai de la mémoire, j'ai de la chance.
C'est stupéfiant. Alors, qu'est-ce que vous prenez pour votre mémoire?
Ben, je prends du ginkgo biloba et de la pervenche. Ah, voilà. Je fais 10 jours tous les
La pervenche, elle a de la mémoire?
Oui,
parce c'est que c'est pour ça qu'elle connaît ces voitures qui sont en stationnement.
Avec le stylo. C'est plein de phosphore. Le ginkgo biloba dilate les artères, oxygène le cerveau. Et la pervenche est pleine de phosphore. Vous me demandez quels sont les fleuves côtiers de la Bretagne, je vous dirai l'Orne, le Blavet, la Vilaine, la Savonne-Irtaise, la Charente et la Dourdes. Je vous connais toutes mes fables.
Ça me rappelle, ma maman, toutes les préfectures, les sous-préfectures, les chefs de canton. Nord, chef de Lyon,
Dunkerque, Douai, Valenciennes, Cambrai, Avennes, pas de Calais, chef du Haras, Saint-Omer, Boulogne, Béthune, Montreuil. C'est tout ça par cœur.
C'est une génération magnifique.
Et oui, il faudra nous tuer, il faudra nous ensuquer, comme on dit chez nous.
À coup de barbe.
Il faudra nous ensuquer à coup de cornes de taureau.
Que pensez-vous du propolis?
La propolis est quelque chose de formidable.
Comme antibiotique naturel.
C'est formidable, la propolis. C'est formidable.
Il y a une chanson, d'ailleurs.
Ah, je connais
la propolis à Dieu, non?
Ah ouais, c'est formidable. Il y a des petites pastilles qui, enfin, au miel et à la propolis que l'on suce quand on a des angines. Il y a de la pommade à la propolis. Il y a un shampoing à la propolis quand on a du psoriasis dans les cheveux. C'est un savon à la propolis qui est au miel, qui est du tonnerre.
Mon grand-père soignait les plantes, notamment l'hémophilie dont il souffrait lui-même, mais il n'a laissé son don à aucun de ses enfants, il n'a laissé aucun renseignement. Connaissez-vous la plante qui soigne ce mal?
Ah non, non, parce que c'est un secret.
C'est votre grand-père qui vous a appris le métier?
Moi, mon grand-père était jésuite, il était vraiment... Enfin, alors, quand on hémophilie...
Votre grand-père était jésuite?
Oui, mon grand-père était élevé chez les jésuites.
Ah oui, donc il était élevé chez les jésuites, parce qu'autrement...
Vous savez où je suis dimanche, Serge? Je suis toute la journée à Saint-Michel de Frigolet avec les pères.
Ah ben, vous les saluez de ma part.
Je vais faire une signature à Saint-Michel de Frigolet après la messe. Alors, contre l'hémophilie, d'accord, mais je connais une plante qui est sensationnelle, c'est la bourse à Pasteur, qui contient de la vitamine K, qui est la vitamine anti-hémorragique, et que je donne en cas de maladie de Crohn, qui est une rectocolite hémorragique.
Rectocolite, on n'en dira pas plus, peut-être.
Non.
Bon, ça va.
Alors là, c'est un commentaire sur autre chose, enfin sur ce qui n'est pas vous. N'oubliez pas qu'en France, on prépare des vaccins avec des souches virales cultivées dans des cellules animales, risque de maladies diverses, et parfois de cellules de fœtus humains, ce qui rentabilise les avortements.
Quelle horreur.
Il n'y a pas d'autre mot.
Moi, je suis contre tout ce qui est les expérimentations sur les animaux, je suis contre, tout à fait.
Ben, sur les fœtus humains, encore
plus. Alors, en plus de ça, maintenant, on va nous faire nos clones, on va se trouver avec eux. Tiens, c'est moi ou c'est mon clone?
Marie-Antoinette, merci.
Oui.
Je vais faire une proposition.
Allez. Oui.
En dehors du fait que vous allez me donner quelque chose contre ma...
Je vous l'enverrai par mon éditeur puisqu'elle part avec moi ce soir en Camargue et qu'elle revient. Elle revient la semaine prochaine.
Ce que je vous propose, c'est que si les auditeurs oublient votre adresse, qu'ils m'écrivent au journal, je vous ferai suivre le courrier ou je vous enverrai les questions, on les publiera.
Aucun problème.
Et on les donnera même à ce micro. Et puis, éventuellement, si vous voulez, vous pouvez poser vos questions par le 3615 Libre Journal.
2 francs 23 minutes.
Et on les transmettra à Marie-Antoinette qui répondra.
Je réponds presque toute la nuit. Il reste, j'écris la nuit. Je ne veux pas me comparer à Napoléon. D'abord, Schiller est plus grande que lui, mais enfin.
Ouais, non, j'allais dire,
il ne dormait que 2 heures par nuit et je dois guère dormir plus. Hein?
Merci de votre visite rapide.
Merci de vous avoir rencontré. Il y avait longtemps que je voulais venir, mais vous savez qu'avec la jambe, le genou que j'ai qui est à moitié fichu.
Mais en avion, il ne vous force pas à pédaler quand même.
Je courais derrière.
Ah bon, d'accord.
On est tellement plus près de Saint-Pierre là-haut.
C'est bon.
Merci encore,
je vous embrasse, à bientôt.
Et au revoir.
On vous embrasse tous. Alors, on répondra. Donc, les messages qui continuent d'arriver, on les transmettra à Marie-Antoinette pour les réponses et on les publiera à ce micro. La santé de vos enfants par les plantes aux éditions du Dauphin, comme d'ailleurs tous les ouvrages de Marie-Antoinette. Donc c'est facile à retenir. Les secrets d'une herboriste, 200 réponses de l'herboriste, plantes oubliées, plantes mystérieuses, les élixirs de santé de votre herboriste, soignez vos animaux par les plantes, balcon et terrasse de l'herboriste. Un herboriste raconte. Ça, c'est les balcons et terrasses, c'est un très joli petit livre, très 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 joli. Voilà, on donne l'adresse des éditions du Dauphin. 43, oui, parce que le libraire vous dit qu'il connaît pas, c'est 43-45 rue de la Tombe Issoire, 75-014 Paris. Rentrez vite.
Si vous avez besoin de n'importe quoi,
c'est promis.
Si vous avez besoin de n'importe quoi, aussi bien vous que n'importe qui ici, vous me le dites.
C'est promis, Marie-Antoinette.
C'est de tout cœur.
Hein. Vous êtes un ange.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était un petit moment avec Marie-Antoinette qui est venue apporter du soleil. Est-ce que vous êtes sensible, Jean-Paul Vulesco, à ce genre de rencontre, à ce genre de personnes, de personnages?
Ah, mais tout à fait, c'est un personnage extraordinaire.
Ah, c'est extraordinaire.
Elle représente une sorte d'entrée violente du monde intérieur dans le désastre actuel de notre vie.
C'est pour ça que j'aime beaucoup Marie-Antoinette, c'est que c'est une lumière. C'est un personnage de lumière. Elle arrive et elle apporte avec elle du soleil,
dans
de
un
la
endroit,
gaieté.
Elle s'est établie dans un endroit de sa propre existence et du monde où elle est en quelque sorte hors d'atteinte.
C'est ça, c'est un personnage. Alors en même temps, qui donne cette impression de force et de résistance invincible.
Et je crois que ce qu'elle dit est d'une valabilité non seulement exceptionnelle, mais de plus en plus aiguë, de plus en plus actuelle.
Alors, pour rester dans le sujet, d'ailleurs, mais revenir à votre œuvre proprement dite, le dernier livre qu'on a pu lire de vous, parce qu'il a été publié il y a maintenant un an, c'est La conspiration des noces polaires. C'est un livre qui a beaucoup surpris par son étrangeté, il faut bien dire. Et on se demande comment, c'est une question idiote à poser à un écrivain, mais je vous la pose quand même, par quel cheminement de la pensée arrivez-vous à construire un livre comme ça, un livre aussi étrange, un livre aussi bizarre, aussi inattendu, aussi paradoxal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que vous écrivez de cette façon?
Mes littératures, si je peux dire, dépassent de loin la littérature dans la mesure où ils utilisent la littérature comme un support. En réalité, ce que je me propose de faire, c'est d'agir sur l'histoire. Les signes des temps non seulement sert à annoncer ce qui doit venir, mais dans la dialectique de leur action, tout signe de temps est une provocation. Les signes de temps provoquent l'avènement de ce qu'ils annoncent. Je m'entends. Ce livre, je l'ai écrit comme une sorte de provocation métahistorique et métapolitique, en ce sens que l'intrigue est le symbole et pousse en avant la structure opératoire d'une conspiration qui ne peut pas ne pas avoir lieu.
Mais en même temps, l'intrigue elle-même, je parlais tout à l'heure à dessein du caractère trivial de certains aspects de vos livres par rapport au caractère extraordinairement élevé de leur contenu réel. Et là, c'est typique dans la conspiration.
Oui, parce que
finalement, il y a un côté dérisoire dans l'intrigue que vous racontez.
Il n'est pas d'action spirituelle qui ne soit prêt à engager dans l'histoire. Tout ce qui arrive est prédestiné, est prédéterminé par la marche même de la divine providence.
Oui, mais donc, pardon, je voudrais vous interrompre une seconde. On a l'impression que ce que vous nous dites, c'est que le plus petit incident de la vie quotidienne, le plus misérable geste, le plus infime regard, le mot le plus involontaire, ou le moins calculé, a une importance, disons le mot, puisque vous l'aimez, cosmique.
Mais tout à fait, c'est ce qui se voit, ce qui nous est donné à vivre, ce que nous vivons, participe en permanence d'une double nature totale. C'est la part du quotidien, réputée triviale, comme vous dites, qui contient par en dessous une charge immense qui est celle de la totalité du cosmos.
Moi, depuis que je connais Jean-Paul Vulesco, quand nous nous voyons, lorsque
nous nous écrivons, etc. On a toujours eu une relation qui était à la fois très humaine et en même temps suprahumaine. C'est-à-dire que plus Jean-Parvus Lescot va dans le divin, plus il est dans l'humain, plus il s'enracine dans le côté charnel des choses quotidiennes, les plus prosaïques ou les plus profanes, en tout cas au premier degré, plus en même temps et parallèlement ou après, ultérieurement, il peut aller dans les choses les plus colossales, les plus grandioses, les plus métaphysiques et les plus hautes. Et Jean-Parvus Lescot d'ailleurs a connu, c'est un petit peu un de mes dadas, comme tu le sais Serge, Jean-Parvus Lescot a connu Julius Evola à la fin des années 60, et Evola procédait de la sorte. Quand il y avait des jeunes du mouvement social italien ou d'organisations de la droite radicale italienne qui venaient le voir, pendant une heure il parlait de tout ce qu'il pouvait y avoir de plus anecdotique, de plus anodin, de plus dérisoire, des histoires de fesses, des histoires de psychologie, des histoires d'intrigues bassement profanes. Et puis alors après, on se met au travail pendant 2-3 heures. Là, on passait aux choses sérieuses. Là, on passait aux choses véritablement qui avaient une importance de plus en plus considérable. Mais il fallait au départ qu'il y ait un nettoyage par le vide, un lessivage, pour qu'après on puisse se mettre en structure opérative et commencer à se diriger.
Il y a aussi un autre angle de vue, une perspective encore plus secrète, c'est celle de l'action de la présence même, la présence des témoins fondamentaux. Je m'explique. Je prends et voilà un exemple, et ensuite je veux me citer moi, une expérience personnelle. Souvent, les jeunes venaient voir et voilà dans l'espoir de ce qu'il allait pouvoir récolter, quelques secrets, quelques enseignements, obtenir une sorte d'un taille brusque sur l'au-delà. En réalité, il n'en était rien. Et voilà, parler surtout du devenir de la droite italienne dans ses dimensions à son niveau le plus immédiat, intrigue de parti, etc. Et les jeunes là présents ne comprenaient pas qu'en fait, ce qui comptait, c'était leur mise en présence des volas. C'est ça l'affaire. Quel pouvait en être le contenu visible, immédiatement saisissable, n'avait aucune espèce d'importance. Au même niveau du problème, quand il y a 2 ou 3 ans, j'avais organisé une sorte de dîner de la Société philosophique Jean-Parvus Lescot. On m'avait en quelque sorte reproché de ne pas avoir pris la parole, de ne pas m'être manifesté d'une manière plus directe. Or, la raison d'être de cette rencontre était tout simplement celle de la mise en présence de ceux qui me suivent et de ce que je suis. Il ne faut jamais donner libre cours à l'esprit dans son action d'influence immédiate.
Ce qui me paraît très important chez Jean-Parvus Lescot, qui a été beaucoup influencé par Georges Bernanos, c'est qu'il veut rendre naturel le surnaturel. Et que par conséquent, effectivement, il y a une grille de décodage et de décryptage à travers son œuvre. Mais si on le connaît directement, on n'aura pas l'impression du tout qu'on a affaire à l'écrivain, qu'on a affaire dans ses bouquins. Non,
de toutes les façons,
il y a une double lecture.
Si on est chrétien, si on est engagé dans la christologie, c'est-à-dire la marche en avant vers le second avènement de Christ, il faut se rendre compte qu'il n'y a pas de nature. Tout est surnature. Tout est surnaturel.
Quand vous dites et vous répétez, quand on vous lit, on voit bien que vous revendiquez hautement et principalement, et uniquement d'ailleurs, votre christianisme, votre appartenance à la foi du Christ, à l'histoire de la rédemption et de l'incarnation et de la rédemption. Mais ce qui est étrange, c'est que quand on considère ce qui a été votre parcours, on s'aperçoit que vous n'avez pas cessé, votre route n'a pas cessé de couper la route de gens qui n'avaient rien à voir avec cet univers-là. Je veux dire, vous avez écrit un livre, vous avez consacré un livre à Béliot, qui n'était pas chrétien, vous avez bien connu Evola, qui n'était pas chrétien, vous avez connu Bergier, on en a parlé, qui n'était pas chrétien.
Mais vous citez des gens qui étaient, comment dirais-je, clandestinement des chrétiens. Parce qu'aussi bien qu'Abelio, à des niveaux très différents d'ailleurs, qu'Evola et Bergier, je les ai assez approchés pour avoir compris qu'en fait, il y avait en eux une présence du Saint-Esprit qui était peut-être quelque peu clandestine par rapport au catholicisme pratiquant tel qu'il est. Mais en réalité, c'était des gens, des élus de l'invisible.
Oui, alors justement, est-ce que vous croyez à ça? Parce que quand je demandais à Bergier, j'ai connu Bergier, j'étais un tout jeune homme, et pour moi, c'était un personnage fascinant, c'était un personnage sorti d'un autre univers, enfin qui était...
Un univers parallèle.
Un univers parallèle, tout à fait. Et je lui disais, Jacques, dites-moi la vérité, vous êtes un grand initié. Il me répondait, je pense depuis le temps que je me connais que je le saurai. Bon, mais alors, ça c'était la plaisanterie, enfin le côté plaisantin de Bergier.
C'est la dissimulation nécessaire de l'initié. Parce que Bergier, je pense que il faut le rétablir dans ce qui constituait la part la plus extraordinaire de son être, qui était sa bonté. Bergier était quelqu'un d'une beauté christique. Bonté à la fois au premier niveau.
Oui, bien sûr.
Il avait 100 balles sur lui, vous lui demandez, il voulait donner. Mmh. Il rentrait à pied. Et ensuite, une bonté qui s'échelonnait en s'élevant vers des degrés de plus en plus insaisissables.
Si Jean-Pierre Vulescot, l'amour, avec un grand A au sens divin, au sens nuptial, au sens mystique du terme, est extrêmement important. Et lorsque, tout à l'heure, tu demandais à Jean ce qu'il entrevoyait à travers le roman, dans son livre Le Guet des Louves, il résume, à mon avis, en 5-6 lignes, vraiment ce qu'on peut attendre du roman, le grand roman. Je veux juste lire ces quelques lignes parce qu'elles me paraissent bien recouper ce que Jean-Pierre Vulescot pense du roman. Le roman peut-il avoir de fin, j'entends, le grand roman? Et tout d'abord, qu'est-ce que le grand roman? Le grand roman raconte indéfiniment la délivrance de l'histoire et du monde par la victoire finale d'une aventure amoureuse, se projetant sous le voile du secret hermétique le plus impénétrable jusqu'au niveau cosmique ultime, divin, et qui de par cela même concerne, engage, assume dans son propre devenir le sort nuptial de Dieu et de son épousée sous voile. Il y a donc toujours cet amour irrépressible, inextinguible, qui existe chez Jean-Pierre Vulescot, mais pas un amour profané, pas un amour tel qu'il est aujourd'hui vulgarisé par nos médias bien pensants, mais un amour avec le Saint-Esprit. Ça, c'est extraordinaire.
Il n'empêche que pour moi, l'amour est exclusivement posable en termes d'incarnation. L'amour, c'est une expérience essentiellement, et je dirais même ontologiquement, charnelle. Le mystère même du christianisme en tant qu'événement unique est un mystère d'incarnation, une incarnation amoureuse, parce que par les voies virginalement amoureuses, et de toutes les façons qui s'est posée en termes de chair.
C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs souvent chez les grands mystiques chrétiens, et Jean-Pierre Vulescot en est un, c'est qu'il y a à la fois la dimension métaphysique, mais la dimension d'incarnation christique. C'est ce qui fait peut-être défaut quelquefois à certains catholiques, c'est qu'on tend soit à accorder le primat à la métaphysique sur l'incarnation, soit à accorder le primat à l'incarnation sur la métaphysique. Et là, les deux sont consubstantiellement liés chez Jean-Pierre Vulescot.
Mais pour revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est l'importance du geste le plus infime, ou de la parole apparemment la plus anodine. Les lignes que vient de nous lire Arnaud Guillaume-Jeannin montrent quelle conception vous avez de l'écriture, quelle conception vous avez de la littérature et du roman. Et c'est effrayant à la lumière de ce qu'on voit et de ce qu'on fait nous-mêmes. Je dirais que ce que vous nous dites là, c'est que tout ce qu'on écrit a un rôle opérationnel direct
tout à fait,
sur la réalité. Et ça nous investit d'une responsabilité qui est effrayant.
Il ne faut pas confondre panthéisme et réalité surnaturelle du monde. Le panthéisme est une émanation satanique. La conception surnaturelle de la réalité est l'essence même de la divinité.
Est-ce que... J'ai un ami qui vous lit avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention depuis longtemps et qui est quelqu'un de tout à fait remarquable. Il m'a envoyé un petit mot, ce qu'on appelle un email par internet, pour s'interroger, sachant que je vais vous recevoir, et s'interroger sur ce que vous êtes. Il me dit qui est Pierre Vulescot et pour qui travaille-t-il? Alors j'étais surpris de cette question, mais je crois que c'est la seule question qui vaille. Alors qui vous êtes? Je ne sais pas si vous pouvez répondre, qui peut répondre à cette question, qui suis-je, mais pour qui travaillez-vous? Ça, c'est une vraie bonne question.
Je travaille pour Rome, pour l'Église catholique, en premier lieu. Au niveau en dessus, je travaille pour le Christ. À un niveau encore au-dessus, je travaille pour la Sainte Trinité.
Mais vos outils, qui sont l'écriture, qui sont le roman, bon, votre outil principal...
Attention, toute la philosophie de Heidegger, qui représente l'effort de limite le plus extrême de ce que notre race a produit dans ce siècle, est arrivé à la conclusion qu'il y a une relation ontologique absolue entre la parole, c'est-à-dire la parole dite, la parole écrite, la parole poétique, et l'histoire, et la réalité. Or, agir sur l'histoire, dans le sens du combat permanent que j'ai déjà défini, peut se faire soit à travers l'action politique, c'est-à-dire l'action de la communauté, des saints projetés dans la société, soit par l'écriture, par la littérature. Mais attention, la littérature, je veux dire, qui soit en relation intime avec l'être. C'est la raison précisément pour laquelle je disais un jour qu'il n'y en a pas et qu'il ne se veut absolument pas qu'il y ait de littérature de droite. Il n'y a que de littérature d'extrême droite. Parce que la relation de la parole à l'action de la littérature est essentiellement une relation directe, amoureuse, nuptiale, révolutionnaire avec l'être. Le non-être appartient au parti d'en face.
Est-ce qu'on peut dire, enfin, est-ce que vous diriez ou vous laisseriez dire, sans apporter de modifications importantes à ce propos, que si le verbe est créateur, la créature elle-même s'exprime par le verbe, que ce soit le verbe parler ou la vibration de l'écriture, et à ce moment-là devient elle-même créateur. Peut-elle être créateur?
L'amour, en tant que tel, est un échange permanent. L'évangile de Saint Jean commence par la déclaration fondamentale qu'au commencement était le verbe. Donc tout est verbe. Ce qui est verbe. Mais ce qui est étant le contenu du verbe, participe du verbe. Donc le verbe crée et la création fait que le verbe soit.
Mais Jean, vous croyez beaucoup aussi au concept de réverbération. Réverbération de l'intérieur vers l'extérieur, ou de l'extérieur vers l'intérieur.
Oui, réverbération,
du visible vers l'invisible, du naturel vers le surnaturel.
Parce que je ne connais pas d'autres termes plus suractivants. On peut utiliser le terme de relation, de contact, mais en réalité, la réverbération, c'est l'union en action.
C'est une sorte de fusion, en fait.
C'est une sorte de fusion active, suractive.
Tantrique, amoureuse, totale, et concomitante.
Dieu se manifeste dans le monde par la réverbération de l'amour qu'il lui porte. Et d'ailleurs, quelle est la structure ultime de l'univers? C'est une structure amoureuse, parce que l'univers est fait de l'amour de Dieu et de Marie. Un amour qui ne se donne pas n'en est pas un. Donc, la preuve même de ce que Dieu aime Marie et que Marie aime Dieu, c'est qu'il se donne. Le don de l'amour divin, c'est la charité. La charité est ce qui nous tient tous ensemble. Donc, il y a un écoulement comme d'une fontaine divine, ininterrompu, entre l'amour de Dieu et de Marie, qui n'existe qu'en se donnant. Et la création a été faite, et l'homme a été projeté par Dieu, parce qu'il fallait, pour se réaliser, que quelqu'un le reçoive. Le réceptacle de Dieu ne peut agir que s'il est analogue à Dieu. Donc, pour recevoir la charité, il faut que nous-mêmes nous soyons en état d'amour, que l'homme imite l'essence de Dieu.
Quand vous dites que, à travers vos livres, que l'homme a un rôle important dans le déroulement, dans l'avènement des événements eschatologiques. Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans un risque d'orgueil prométhéen ou luciférien qui consiste à dire sans l'homme, Dieu n'a rien, Dieu ne peut pas mener sa création à terme.
Bien sûr, mais tout cela est et, comment pourrais-je dire, défendu par le fait de ce que la conscience christologique est fondée en humilité. Ce n'est que dans la mesure où nous comprenons ce qu'est Dieu par rapport à nous que nous pouvons nous considérer en rapport avec Dieu.
Oui, moi, j'avoue que quand on lit à chaque fois les livres de Jean Parvulescu, à chaque fois, on a toujours cette phrase bien connue, un peu galvaudée, mais qui nous revient sans cesse, de façon récurrente en tête, « Dieu premier servi », toujours. Donc, il ne peut pas y avoir d'orgueil prométhéen ou d'orgueil titanique, parce que Jean Parvulescu se met au service de Dieu. Il se met en relation avec Dieu, il n'essaie pas de lui voler le feu, il n'essaie pas de devenir Dieu lui-même, il le sert. Donc, c'est une connaissance de Dieu. Et ce qui est intéressant, notamment dans son dernier ouvrage, La conspiration des noces polaires, c'est que la structure du livre est une structure quasiment filmique. C'est une structure cinématographique. Mmh. Dans la forme, c'est du Jean-Luc Godard, et dans le fond, c'est du Jean-Pierre Melville.
Je préfère le fond, en l'occurrence.
Oui, mais Jean Parvulescu a connu les deux, puisque Melville a joué le rôle de Jean Parvulescu dans le film de Godard, À bout de souffle, puisqu'il jouait le rôle de l'écrivain Jean Parvulescu. Et je pense que Jean Parvulescu ne s'en est pas rendu compte quand il a écrit le livre. Je lui ai dit après avec Jean-Pierre Joris. Et on a remarqué que le livre pourrait servir de film. Pourrait servir de
oui,
film.
Mais il y a aussi,
c'est extraordinaire.
Il y a aussi un concept, comment pourrais-je dire, génétique de génération ou du moment de l'histoire.
Jean Parvulescu, on va reprendre la parole dans deux minutes, pour une dizaine de minutes. Et je voudrais surtout vous soumettre les questions des auditeurs.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, voici le livre journal de Serge de Bekech, daté du 23 juin 1999, et rediffusé ce dimanche 23 février 2014 dans la nuit de 2h à 5h. Attention, exceptionnellement vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Vous savez, parfois en discutant avec François Plantet, on se dit... Il y a un signe absolument sûr, quand on touche quelque chose dans une émission, pof, on tape cœur de cible, il y a un signe qui est très très clair, c'est constant, c'est que les diablotins s'agitent. Ouais. Alors ils deviennent hystériques littéralement. Alors je vais vous lire des messages. Arrêtez de frimer et de faire comme si vous compreniez ce que dit Monsieur Parvulescu en essayant de nous faire croire que ça veut dire quelque chose. Alors j'ai envie de lui répondre par la déclaration d'un autre auditeur qui dit... Ça, c'est assez joli, parce qu'ils se répondent entre eux, c'est mignon comme tout. Je sais pas où j'ai mis le papier. Mais il dit, vous me faites penser à ce que Nietzsche appelait l'esprit de lourdeur. Vous devez avoir les chevilles qui enflent. Et puis, un autre nous dit, mais c'est vraiment n'importe quoi ce soir. Et bon, il fait un message qui, je dis pas, parce que c'est vraiment pas intéressant. Mais il le signe Bernadette Soubirous. Et donc, c'est un message d'injure. Donc ça, c'est un signe. Il y a comme ça, si vous voulez. On sent que la bestiole, la vilaine bestiole,
oui,
elle est touchée.
Le coup de la signature, hein, Bernadette, voilà. C'est extrêmement significatif.
Voilà. C'est significatif.
C'est la possession diabolique qui...
Et puis, on a l'impression qu'on lui a fait un peu d'eau bénite sur le bout du nez et que ça lui plaît pas du tout. Ouais. Et alors, il envoie ses diablotins nous aboyer au basque. Eh bien, ils ont bien raison d'aboyer. Avez-vous vu l'évangile selon saint Matthieu de Pasolini, nous demande une auditrice. Vous avez vu ce film admirable? C'est vrai ce que je dis, c'est un pur chef-d'œuvre. Il faut voir, là, voilà une chose qu'il faut voir. Je suis content de voir qu'enfin j'aurais pu voir quelque chose que j'en parle, ce qu'on n'a pas vu.
Surtout que vous aimez bien Pasolini.
Relativement,
vous n'êtes pas un fanatique.
Oui, non.
Alors, voilà un autre exemple de message qui est tout à fait intéressant, mais qui est curieusement
comment dirais-je, amoché par le ton. Je vous le lis. Si vous étiez chrétien, vous ne diriez pas que tout est surnature. Ne faire aucune distinction entre nature et surnature est totalement hérétique. Bon, ça, on peut en discuter, effectivement. Point. Ne prenez pas les auditeurs pour des demeurés, vous n'êtes pas à la télé. Je vois pas pourquoi on ajoute, c'est une phrase superflue, enfin, c'est bon. Alors, nature, surnature, est-ce que vous voulez en parler? Vous pouvez en parler en moins de 2 heures?
On ne peut pas en parler, par tu l'as. Je maintiens ce que je disais, c'est que dans la perspective christique ultime, tout est surnaturel. D'ailleurs, la fin d'un journal d'un curé de campagne de Berlanos a cette phrase décisive, tout est grâce. Mm. Alors, tout est grâce.
Alors, qu'entend Jean Pavulescu lorsqu'il dit l'homme doit imiter Dieu?
Ben, imitatio Christi.
Oui, c'est pour ça que je suis étonné qu'on puisse s'étonner de ce propos. Il est tout entier dans l'imitation de Jésus-Christ.
Bah oui, Dieu nous commande d'être à son image. Donc il est difficile de ne pas...
Dieu nous commande d'être des saints.
D'autant plus qu'ontologiquement, on est à son image.
Oui.
Et à sa ressemblance, qui est beaucoup plus loin. Parce que...
Ce qui fait qu'on passe notre temps à désobéir. Je ne suis pas d'accord, nous dit un auditeur, quand vous dites que le panthéisme est une... Alors je ne peux pas lire le mot là. Est satanique. Relisez l'œuvre de Dumézil sur les mythologies comparées et n'oubliez pas... Codon est un dieu as.
Oui, mais Dumézil n'était pas panthéiste. D'autre part, le panthéisme, il y a différentes définitions. Je pense que Jean Parvulescu donne du panthéisme cette définition qui veut dire qu'à partir du moment où on voit Dieu partout, on ne le voit plus nulle part. Donc Satan peut s'y loger. Alors comme disait Baudelaire, la meilleure ruse de Satan, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Par conséquent, si Satan se loge partout, puisqu'on n'a pas laissé une ouverture à Dieu pour pouvoir y pénétrer, on laissera Satan abattre le champ de la lumière. Donc,
et de toute façon, le panthéisme, en tant que, puisqu'on en parle en tant que vision non pas philosophique, mais mettons spirituelle, peut être considéré comme une option non négative, dans la mesure où il se fonde sur le sacré. Or alors, il devient la surnature.
Oui, parce que si on prend par exemple l'œuvre de Tolkien, on en a souvent parlé ensemble, l'œuvre de Tolkien, si elle est prise au premier degré, effectivement, elle est panthéiste. Il y a des événements, des animaux, des arbres, une espèce de réminiscence spirituelle à travers la forêt, à travers ce qui bouge, à travers la création. Mais précisément, il y a création. C'est-à-dire que la nature est ordonnée à la création. Donc le panthéisme, vous limitez... Disons ce qui a été créé, alors que on peut avoir une démarche transcendantale qui consiste à dire que la nature en tant que telle doit être maîtrisée par l'homme et c'est pour ça qu'on doit l'honorer.
Maîtrisée par l'homme au nom de Dieu. D'ailleurs, la frontière exacte entre le panthéisme et la surnature est contenue dans, je ne dirais pas dans la doctrine parce que c'est une doctrine implicite, mais dans l'expérience de Saint François d'Assise. L'ordre des franciscains est un ordre qui se bat pour la sacralisation permanente et totale de la réalité.
Mais dans la Genèse même, le fait que Dieu fait comparaître les animaux devant l'homme et demande à l'homme de les nommer, ça veut dire que Dieu donne à l'homme la maîtrise de la nature, de l'ordre.
Mais vous me disiez tout à l'heure que vous aviez l'impression, que j'exagérais peut-être, dans l'importance qui semblerait que je donne à l'action humaine dans l'histoire. Mais... Il est parfaitement certain que Dieu intervient dans l'histoire par l'intermédiaire de l'homme. Si l'homme est disposé à se mettre aux ordres de Dieu.
C'est ça que je voulais vous faire préciser, parce que, je veux dire, effectivement, toute la différence est là entre l'homme qui se met au service de Dieu dans l'accomplissement des desseins de la Providence, s'il peut apporter son aide, alors
s'il
en tant
appelé,
que
va le faire.
Jardinier, comme disait saint Augustin, oui. Ça, c'est la différence avec l'homme qui croit qu'il va devenir comme nous-mêmes, dit la Genèse, c'est-à-dire qu'il va devenir Dieu. Donc ça, c'est l'orgueil luciférien, c'est deux attitudes totalement différentes.
Au jugement dernier, la question fondamentale qui sera posée à chacun de nous, c'est qu'as-tu fait pour moi? Qu'as-tu fait pour moi? Mais chacun, à ce moment-là, répondra selon ce qu'il a fait pour Dieu.
La volonté n'est que l'auxiliaire de la divine providence. Accorder un statut primordial à la volonté sur la providence, ça c'est du premier
être le serviteur de Dieu en termes de divine providence, être serviteur d'ailleurs dans le sens féodal du terme, pas dans le sens...
C'est le « aide-toi et le ciel t'aidera ».
Alors, pouvez-nous dire, demande un auditeur, comment vous traduisez le mot diable en grec ancien? Je crois qu'il veut dire quel est le sens du c'est diabolos, le séparateur, le diviseur. Il est à noter, d'ailleurs, c'est encore quelque chose qui est frappant, c'est que dans la Genèse, enfin dans la création, dans le récit de la création, il est indiqué, et Dieu vit que ça a été bon, dans tous les actes de la création, à tous les jours de la création, sauf au deuxième jour.
Non mais attention, l'action satanique dans l'histoire, tout au moins, est extrêmement sainte. Elle tend indéfiniment à séparer l'homme de Dieu. Alors que l'action divine tend à ramener l'homme à ce qui fait sa raison d'être et sa gloire.
Et alors ce qui est aussi, il faut à mon avis préciser, c'est que dans le monde pré-chrétien, il y avait analogiquement ce que représente Satan dans le monde chrétien. C'est Loki. Loki représente le mal.
Mais dans toutes les
dans toutes les traditions.
Ça c'est dans les mythologies
nordiques. Oui, mais dans toutes les traditions spirituelles, il y a la présence du bien et du mal. Et par conséquent, on ne peut pas dater évidemment la création humaine de la révélation christique, mais elle est bien entendu antécédente. Quand je répète souvent cette phrase de Joseph de Maistre, parce qu'elle me paraîtrait définir la vision christique et primordiale qui semble être la nôtre. La vraie religion n'est pas née le jour où naquit le Christ, mais le jour où naquirent les jours. Par conséquent, il y a un monde démiurgique.
La demeure de l'homme, c'est le sacré.
Alors, l'auditeur qui avait évoqué Dumézil revient et le dit, je remercie Radio Courtoisie d'avoir eu l'élégance de passer mon message dans des places aux intervenants. La dernière prestation télévisée de Georges Dumézil, dont je tiens à saluer l'œuvre, et qui était interviewée par Pivot, donc au cours de cette dernière intervention, Dumézil, in fine, Pivot lui demandant de choisir entre Dieu et les dieux, a donné la réponse suivante. Il était plus favorable, nous dit cet auditeur, au Dieu qu'à Dieu.
Donc, il avait tort, il a payé chèrement.
C'est évident. Oh, je pense qu'il va avoir le temps de méditer son erreur un petit peu. Je vous ai entendu dire que le Christ souffrira jusqu'à la fin des temps. Que pensez-vous alors de l'évangile de saint Matthieu ? Où le Christ est celui qui aime son père, sa mère, ses enfants. Pardon, où le Christ dit celui qui aime son père, sa mère et ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi.
Je ne vois pas la relation entre.
Moi non plus, mais je lis le message.
Jean-Paul Lesco n'a pas dit ça en plus. Il a dit que nous étions en état on était en état d'agonie comme le Christ l'était à l'époque où il était en état d'agonie.
Non, ça ne veut pas. C'était Pascal qui disait que le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde. Et je pense que d'une certaine manière, il a parfaitement raison.
Tant qu'il y aura d'ailleurs une seule souffrance, une seule larme, une seule...
Le
Christ sera toujours en croix et la crucifixion christique existera toujours. Donc il y aura toujours d'ailleurs la possibilité du rachat ultérieur.
Les thèses de Jean-Paul Bulesco en matière d'histoire du salut se retrouvent chez les théologiens de l'eschatologie ou de la doxologie, chez les Allemands, où les thèses ne sont jamais reprises. Dans les églises, dont les représentants sont souvent invités à Radio Courtoisie, ce qui ne peut avancer à rien d'intéressant au niveau de l'action chrétienne.
Je comprends pas ce que...
Je pense que ce que cet auditeur veut dire, c'est que lorsque nous recevons généralement dans cette émission des prêtres de la tradition, ils n'exposent pas, ils ne partagent pas vos thèses.
Oui, parce
relatives
que l'Église aussi est en agonie jusqu'à la fin du monde.
Alors, ce qui m'étonne, c'est la phrase qui ne peut avancer à rien d'intéressant au niveau de l'action chrétienne. Je ne sais pas. Ce que je crois que la seule chose qui soit vraiment intéressante, c'est de donner la parole à des gens qui ont quelque chose à dire, et je l'ai dit plusieurs fois, et ensuite de mettre en action sa capacité de discernement et de faire un choix par soi-même. Je pense que quelqu'un qui n'est pas capable de recevoir ce genre d'émission, il a tourné le bouton depuis longtemps, et bon, ça n'a donc aucun caractère dommageable pour personne, et puis ceux qui écoutent et qui s'intéressent, ils peuvent réfléchir et dire, et puis tirer la substantifique moelle ou le sucre.
Il se vérifie encore une fois le fait qui pour moi représente la chose la plus extraordinaire des temps actuels, c'est l'inconcevable déchristianisation de la nation. En France, l'Église est morte.
Il y a une, en tout cas, l'Église, je ne sais pas.
L'Église visible,
oui. Bien entendu.
Mais ce qui est certain, c'est que on voit ce que je disais au début de cette deuxième partie. On voit bien, on vérifie à chaque fois qu'on aborde ce genre de sujet, de la façon dont vous l'abordez, que ça suscite des explosions de haine. Ça, c'est très étrange.
Mais c'est, un le, signe, c'est le seul c'est un domaine qui ne ment pas.
Voilà. D'ailleurs, à l'époque où Maître Eckhart faisait ses sermons et écrivait, il suscitait la même haine.
Dans la rue Vous Vouloir, M. Perbulesco a écrit un jour que Heinrich Himmler, dans les derniers jours de la guerre 39-45, avait adressé une lettre au général de Gaulle dont il a donné le texte. Himmler demandait à de Gaulle de prendre la tête de l'Europe afin d'en assurer la construction. Ce qui
décidément c'est de Gaulle qui l'a dit dans sa mémoire, c'est pas...
Voilà, M. Perbulesco peut-il confirmer ses écrits?
Mais il n'a qu'à acheter les mémoires du général de Gaulle.
Ça, c'est peut-être beaucoup demandé, quand même.
Ou alors, se le faire prêter à la bibliothèque municipale.
Donc, vous confirmez. Connaissez-vous l'ouvrage de Pierre Nord, alias Colonel Brouillard, qui écrivit Terre d'angoisse, paru en 25-30 aux éditions du Masque, série espionnage? Et quel est votre avis sur ce livre, paradigme du livre d'espionnage?
Je connais Pierre Nord, mais je ne pense pas avoir lu ce livre.
Alors, il y a une question, je vous la pose, mais on n'aura pas le temps d'y répondre, parce que Daniel Amiche piaffe, et il a bien raison, je préfère qu'il piaffe plutôt que Dalida. quel rapport entretenez-vous avec la Nouvelle Droite? Voilà.
Des rapports d'amitié
individuels avec certaines personnes.
Individuels avec certaines personnes. Et quant à l'ensemble, j'ai des réserves extrêmes concernant le paganisme d'une partie de l'extrême droite, de la Nouvelle Droite, et ça ne porte pas à conséquence.
Il y a quand même quelque chose qu'il faut signaler, c'est que dans le numéro d'éléments qui va paraître la semaine prochaine, il y a un numéro spécial Dieu, où il y a un article de Jean Parvulesco.
Pas un article, une réponse.
Oui, enfin une réponse, disons, à un questionnaire, enfin qui est compris comme un article adossé à d'autres, et il y a notamment la contribution de Roger Ravires-Parsa, qui est un catholique espagnol, et celle de Jean Parvulesco, et puis en septembre, il y aura deux autres contributions, donc ce qui veut dire que la Nouvelle Droite peut être ouverte à des chrétiens ou à des catholiques qui entretiennent des rapports individuellement positifs avec elle.
Oui, parce que la Nouvelle Droite, sous votre influence, a quand même quelque peu changé de ligne.
Non, vous exagérez un peu, Jean.
Voilà, alors, pour finir, je crois que j'ai cité pas mal de messages des diablotins, je vais peut-être arrêter maintenant. Pour finir, je citerai un message de mon gourou personnel à moi, qui dit « Je suis fasciné par la profondeur des propos de M. Parvulesco. Pour les autres critiques, je réponds « Ne sutor ultra crepidam ». Voilà.
Si vous traduisiez pour les auditeurs.
Pas au-dessus de la semelle, cordonnier. C'était ce que je ne sais plus qui avait dit à. Je ne sais plus quel. César avait dit à son cordonnier qui arrangeait ses chaussures et qui lui faisait des remarques sur l'État, qui allait finir par lui faire.
Mais
lui,
au lieu de parler tout le temps de la famille, Serge, de la famille oui. Au sens national, etc., oui. Dont tu parles souvent, tu pourrais prendre une expression que Jean Parvulesco a souvent utilisée, qui est peut-être plus élitiste et moins démocratique, ce qui te fera plaisir, l'expression les nôtres, en parlant des nôtres, les convives de Pierre.
Les nôtres, comme disait l'excellent Sacha Guitry. Une
conclusion encore. Oui. Je trouve cette émission formidable, car cela aide pour certains à retrouver l'Église catholique. Je fais partie des certains et des gens contents.
Ben, ça fait plaisir.
C'est cela qui nous intéresse.
Alors, je rappelle que les livres de Jean Parvulesco sont parus pour les derniers, hein, les 10 derniers pratiquement, chez Guitry et Daniel. Alors, c'est là que vous pouvez les commander, ou vous pouvez les commander dans n'importe quelle librairie d'ailleurs, en indiquant qu'il s'agit de livres publiés chez Guitry et Daniel éditeur. Alors je rappelle le titre qui va paraître aujourd'hui, demain ou après-demain, c'est un bal masqué à Genève, le titre paru précédemment.
Qui est très certainement le livre fondamental de ma littérature jusqu'à là.
J'ajouterai aussi le livre paru dans les années 80 à l'âge d'homme, extraordinaire, qu'il faut lire absolument, Les mystères de la ville Atlantis.
Voilà, donc vous avez déjà deux livres à lire. Le dernier, Un bal masqué à Genève, et puis un livre qui maintenant est vieux de bientôt 10 ans, Les mystères de la villa Atlantis.
Précipitez-vous.
Qui lui est paru aux éditions de l'âge d'homme.
J'ai voilà. Quelques toutes petites questions. Comment fait-on pour s'abonner au Libre Journal, tarifs, etc.
Je viens
de la gauche et je souscris à tout ce qu'a dit ce soir Serge de Becquet. C'est une bouffée d'oxygène. Allez, ouais. Donnez l'adresse.
Encore un naufragé tiré de l'océan. Non, Daniel n'est pas d'accord, il ne souscrit pas. Alors, le Libre Journal, 4 Place France Litz, 75-010 Paris. L'abonnement est 700 francs, mais dans notre immense générosité, on propose un paiement soit une fois 700 francs, soit deux fois 350, soit trois fois. Enfin, vous payez comme vous pouvez. L'essentiel, c'est de lire le journal.
Parlerez-vous dans ce Libre Journal de l'article du Journal espagnol que vous avez
dans le prochain,
ce
dans
soir.
Le 186, oui, absolument.
Pouvez-vous redire à l'antenne l'adresse où l'on peut aider le peuple serbe?
Écoutez, j'ai pas cette adresse aux yeux, mais c'est
dans le Libre
pas,
Journal.
C'est rue du Simplon. C'est dans le Libre Journal ou dans le Minitel.
Non, Minitel 36.
Rue du Simplon à l'Église orthodoxe.
Voilà. Oui. Minitel 36, Libre Journal. Voilà. Et puis, redites l'adresse où on peut joindre Madame Mulot.
Eh bien, vous. Ah, l'adresse.
Non, moi j'ai l'adresse du livre, mais j'ai pas.
Ah, c'est à Saint-Gilles mais... Croix-de-Vie.
Oh, tout le monde doit la connaître.
Non, pas Saint-Gilles Croix-de-Vie, à Saint-Gilles.
Mais non, pas Croix-de-Vie. Saint-Gilles du Gard.
Saint-Gilles du Gard, voilà. Bon. Vous vous écrivez Marie-Antoinette Mulot, Saint-Gilles du Gard, ça arrivera certainement.
Et puis alors, son
ça
livre.
Ça s'appelle Rue de la Porte Blanche. Voilà.
Ah oui, oui, oui.
Rue de la Porte Blanche.
Et puis son livre s'appelle La santé de vos enfants par les plantes. C'est aux éditions du Dauphin, 43 rue de la Tombissoire, Paris 14e. C'est bien dans l'évangile, quelqu'un vous précise, c'est bien dans l'évangile de Saint Matthieu, mais il ne dit pas ne pas les aimer. Pourquoi votre... Oui, on peut pas revenir dessus.
Oui, ça serait trop long, là. Non, mais j'ai bien compris ce que veut dire cet auditeur.
Ce sera pour une autre fois.
Voilà, je vous remercie. Et demain, puisqu'on parlait de la Nouvelle Droite, demain, si vous voulez entendre un chanteur de la Nouvelle Droite, vous pouvez aller chez la mère agitée, 25 rue Campagne Première, où le chanteur Merlin...
C'est sûr que c'est 25. Ça n'a jamais 21, été 25, 27, c'est 21.
21, c'est pareil. De toute façon, il risque pas de se tromper, ses voisins. Donc, 21 rue Campagne Première, où le chanteur Merlin, l'abominable, exécrable, détestable chanteur Merlin... Enfin, pas par la façon dont il chante, mais par certains de ses chants qui sont absolument, je le dis, scandaleux. Je l'ai déjà dit, donc il sait ce que j'en pense. Cela dit, c'est quand même quelqu'un d'intéressant. Va donc demain soir à 20h, il chantera pendant que vous dînerez chez la mère agitée. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une émission de 3h. Vous n'y échapperez pas. D'ici là, que Dieu nous garde.
Bonsoir aux auditeurs qui restent avec nous pour cette deuxième partie du Libre Journal de Serge Beckett qui va nous emmener jusqu'à peu près 21h, enfin 5-6 minutes près. Je salue d'abord la présence de Marie dans le studio.
Bonsoir Daniel et bonsoir à tous les auditeurs de province et de la région parisienne.
Voilà, vous avez passé une bonne semaine ?
Très bonne, merci Daniel.
Bah, la prochaine sera meilleure puisqu'on n'a pas d'émission la semaine prochaine, alors c'est mieux. On va pouvoir se reposer un peu. Mais par contre, vous allez devoir me supporter pendant... 15 jours en juillet étant... Combien il a de jours le mois d'août ? 31. Bah voilà, tout le mois d'août, vous allez me supporter. Alors ce soir, nous avons un programme bon court, puisqu'on a une petite heure d'émission, mais nous avons trois invités qui vont venir nous parler de choses un petit peu différentes. D'abord, Eric Sinotti, qui est un jeune commercial, enfin un cadre commercial dans le professionnel, n'est-ce pas ? Mais qui a la particularité d'être aussi le rédacteur en chef de Renaissance catholique. Je crois que nos auditeurs connaissent un petit peu cette association. Puis il vient nous parler de... Bon, on avait décidé de faire une petite piqûre de rappel pour la 8e université d'été de Renaissance catholique, dont le titre est la repentance, ça fait très mal au cou, la repentance, 2 points, pourquoi nous ne demandons pas pardon. Alors là, vous allez vous expliquer pourquoi vous ne voulez pas demander pardon, parce qu'aujourd'hui... Tout le monde demande pardon.
Ouais, c'est un peu provocateur, effectivement.
Ouais, vous êtes des Astérix, hein, petit bonhomme. Vous êtes les seuls à ne pas vouloir demander pardon.
Eh ben oui, bon, c'est curieux, on persiste. Hein.
Bon. Alors nous recevrons également l'ami Jean-Patrice Brosse, qui est un habitué de cette émission et de cette station, qui vient nous parler essentiellement d'un magnifique festival dont il est le directeur artistique, qui est le festival du Comminges, qui se déroule à Saint-Bertrand de Comminges, qui est un site superbe, et je dois dire que le programme de cette année est Enfin, c'est hallucinant qu'on puisse faire aussi beau, quoi. C'est magnifique. Et ça, ça va durer pendant du mois de juillet. Ça commence le 14. Ça commence le jour de la Saint-Bonaventure, le 14 juillet. Saint-Bonaventure, voilà. Et ça se termine largement après l'Assomption. Encore qu'il sera question de l'Assomption, je pense, quelque part, ça se termine le 28 août. Alors, voyez, vous avez, chers auditeurs, vous allez avoir bien des occasions d'aller écouter tous ces magnifiques concerts. Et puis, accessoirement, si Jean-Baptiste Brosse a le temps, on dirait un petit mot du deuxième volume des quintettes du Padre Antonio Soler, qui viennent de paraître chez Pierre Verani, dont on écoutera un tout petit extrait tout à l'heure. Bon, enfin, si on n'a pas le temps, je pourrais de revenir après, quand vous aurez terminé votre devoir devoir d'été à Saint-Bertrand de Comminges, eh bien vous reviendrez nous parler de ce fabuleux, extraordinaire musicien et claveciniste que fut le Padre Antonio Soler. Et puis, pour terminer, Jean-Luc Gourdin, qui lui aussi est cadre commercial dans la vie professionnelle, mais qui est un historien, qui est un homme qui a le goût de l'histoire. Et il vient nous parler d'un livre épatant, enfin d'une biographie épatante sur la duchesse du Maine, dont on a déjà parlé à cette antenne, avec un autre auteur qui a fait il y a quelques années une duchesse du Maine. C'est-à-dire que celui-là est quand même un petit peu différent d'approche. Et on a parlé des Condés la semaine dernière avec Katia Béguin. On va reparler cette fois-ci des Condés, puisque la duchesse du Maine était la petite fille du grand Condé. Mais avant, je pense que Marie a deux, trois messages à nous lire assez rapidement.
Si oui, Daniel. Marie. Tout d'abord, les rencontres culturelles de Paul Bilaire. Il s'agit des deux dernières rencontres de la saison 98-99. Tout d'abord, le samedi 26 juin, le thème des rencontres sera le cimetière Montparnasse et ses morts illustres, Baudelaire. Et Gisippe, Moreau, Marie Dorval, Saint-Saëns, César, Franck, Maupassant, etc. Le rendez-vous est fixé à 14h45, comme à l'accoutumée, à l'entrée du cimetière, au 3 boulevard Edgar Quinet, le métro le plus proche étant Raspail. Et le samedi 3 juillet, les rencontres auront pour thème la place des Vosges, ancienne place royale, son histoire, ses hôtels, ses hôtes illustres. Le rendez-vous est fixé à 14h45 devant la maison de Victor Hugo, qui se situe au 6 place des Vosges, et le métro le plus proche est la station Saint-Paul.
Voilà, donc ce sont les deux dernières rencontres culturelles de la saison.
Voilà.
Et après, il faudra attendre le mois de septembre pour suivre les conférences, les causeries et les promenades organisées par Paul Bilaire.
Nous annonçons également, enfin nous réannonçons plus exactement, oui. La sixième université d'été du Centre d'études historiques qui se dérouleront dimanche 11. Ah. Oui, pardon, qui se déroulera puisque c'est la sixième. Du dimanche 11 au mercredi 14 juillet. Ces journées qui bénéficient du haut patronage de Monseigneur le Duc d'Anjou se dérouleront en présence de Madame la Duchesse d'Anjou et de Ségovie.
La grand-mère.
En l'année du tricentenaire de la mort de Jean Racine, lors de ces journées, un accent particulier sera mis sur ce grand auteur. Et parmi les conférenciers de renom,
grand auteur, ce génie.
Bien sûr, Daniel.
Enfin, c'est un génie, Racine.
Bien sûr.
Il a eu un seul défaut par rapport à Shakespeare, si je puis vous couper, vous me permettez que je coupe, c'est qu'il n'a pas été acteur. Si Racine avait été acteur, le théâtre de Racine aurait dépassé de 50 coudées le théâtre de Shakespeare.
Parce que vous estimez qu'il ne le dépasse pas actuellement?
Amen dico vobis. Hein? Ah non, c'est différent. Non, Shakespeare, c'est pas mal quand même. Mais Racine, c'est mieux. Enfin, je préfère.
Il aurait peut-être dû écrire en anglais aussi.
Mm-hmm. Ah bah aujourd'hui, si Racine naissait, à mon avis, il risque pas de se produire tout de suite, compte tenu des résultats scolaires. Mais enfin, si un Racine, on sait jamais, si un Racine arrivait, il serait obligé d'écrire en anglais, quoi. En sabir, anglo, je sais pas quoi. Enfin, sabir, quoi.
Texan.
Oui, texan.
Parmi les conférenciers de renom, nous signalons tout d'abord Jean Dubu.
C'est Jean Dubu, il faut préciser que c'est lui qui a organisé cette journée particulière, cette journée Racine.
Oui.
Qui aura lieu le mardi 13 juillet.
Oui.
Et où les auditeurs qui souhaiteront y aller auront un double bonheur. D'abord, ils entendront une très bonne conférence et ils me verront.
Donc Jean Dubu, que nous ne présentons plus, puisque c'est un éminent spécialiste
sans,
de Jean Racine.
Voilà, ils me verront sans supplément de prix. J'insiste beaucoup, parce qu'on aurait pu dire, bon, ce qui vient, on va faire... Non, c'est tout sera...
Ensuite, nous signalons la présence également de Madame le professeur Pitaluga de l'Université de Gênes.
Mais qui va parler du vocabulaire racinien, tant que je me souviens.
Oui, Monsieur l'abbé Chanu.
Qui va montrer, enfin, c'est une Italienne, n'est-ce pas, mais qui est une grande spécialiste de racines, ce qui montre que les spécialistes de racines ne sont pas que les Français. Et elle va, je suppose qu'elle va démontrer que c'est une véritable, enfin, que c'est une scie, quoi, de dire que Racine utilise 600 mots. Enfin, moi, c'est vraiment, c'est grotesque.
La présence également de Monsieur l'abbé Chanu, que nous ne présentons plus, et qui connaît évidemment le XVIIe siècle.
Ah oui, il va parler de Racine et Port-Royal. Très intéressant sujet, Racine et Port-Royal.
Monsieur Leroy, Monsieur Robert, le professeur Robert McBride de l'Université d'Ulster, je pense. Et la présence également de Jean-Christian Petit-Fils, qui auront tous des conférences tournant autour du thème principal, qui est Jean Racine.
Voilà, d'autres gens. D'autres... Alors peut-être que vous pourriez donner le téléphone quand même, parce que...
Oui, c'est exact. Pour tout renseignement et pour les inscriptions, il faut s'adresser au centre d'études historiques, au 72 rue de Flore, 72 000 Le Mans. C'est l'adresse que vous préférez ici, je crois.
Bah, c'est tellement facile. 72 rue de Flore, 72 000 Le Mans. Vous voyez, quand même, c'est quand même plus pratique qu'une boîte postale 4312X02, Paris CEDEX, je sais pas quoi. Enfin, c'est...
Et l'on peut également se renseigner par téléphone au 02 43 81 37 67. Je répète, pour la mine de crayon. Oui. 02 43 81 37 67.
Voilà, vous pouvez appeler maintenant, il y aura quelqu'un qui vous répondra. Alors, nous passons à Éric Sinotti, rédacteur en chef de Renaissance catholique. Je crois qu'on a déjà parlé dans le livre journal de Serge Beketch il y a une quinzaine de jours. C'était Michel de Gégère, cher Michel, qui est venu parler de ça. Voilà,
qui est le coordinateur de nos universités depuis leur création.
Alors, il faut nous expliquer brièvement, je vous ai dit qu'on avait relativement peu de temps ce soir, mais il faut nous expliquer brièvement pourquoi cette 8e université d'été de Renaissance catholique a pris comme thème la repentance et le sous-titre « Pourquoi nous ne demandons pas pardon en cette année 1999 ?»
Bien, il nous semble... que c'est un thème d'actualité. On entend souvent parler de repentance. Ce n'est pas un thème qui est en plus propre à l'Église. Mais comme nous sommes catholiques, nous avons le sentiment que la repentance nous est systématiquement proposée par nos évêques, par le Saint-Père. Et nous avons voulu nous pencher sur ce thème, alors de façon un petit peu provocatrice dans le titre, mais sans esprit de polémique. L'objectif de cette université d'été, c'est d'essayer de remettre les pendules à l'heure de l'histoire, de l'Église, avec des intervenants qui font autorité dans la matière. Ce que nous voulons transmettre aux personnes qui sont inscrites à cette université d'été et qui vont s'inscrire, puisque nous avons déjà plus de 200 inscriptions et que nous en espérons encore beaucoup, c'est de leur apprendre à ne pas rougir de leur passé, de ne pas rougir de ce qu'a fait l'Église. Il y a eu, bien sûr, des hommes d'Église qui se sont souvent comportés comme de pauvres hères, mais en aucun cas on ne peut accuser l'Église, une sainte catholique et apostolique, des crimes dont se sont rendus coupables ses représentants. Et c'est la raison pour laquelle... à contre-courant, sans doute, de l'esprit ambiant, nous allons essayer de démontrer en 4 jours, ce qui va quand même pas être chose aisée, que l'Église, loin d'être cette puissance dominatrice et oppressive, a été un facteur de progrès et qu'elle a au contraire été souvent en but à l'hostilité.
Alors il y a deux parties principales dans cette université d'été. Il y a d'abord ce que vous évoquez, ce qu'on pourrait appeler les légendes noires de l'anticatholicisme, c'est-à-dire l'ensemble des scies qu'on a vu se développer au cours des dernières années, même s'il y a évidemment un fond de vérité dans ces choses-là. Et puis la deuxième partie, alors vous renversez, enfin vous tordez le bâton dans l'autre sens, et vous allez parler justement pour ce que vous appelez les crimes des ennemis du catholicisme. Enfin, vous allez prendre l'autre côté, ceux qui ne sont pas catholiques, qu'est-ce qu'ils ont fait aux catholiques,
voilà.
En fait Est-ce bien raisonnable?
Première, c'est vrai, première partie, on va faire exploser les idées reçues, dont nous sommes tous complètement imbibés. Et pour cela, on va se garantir de la caution de personnalités tout à fait prestigieuses. Il y a en particulier l'historien Jean Dumont, qui est très célèbre en raison de ses études sur l'histoire de l'Espagne. Nous avons également invité durant cette partie Jacques Trémollet de Villers,
un avocat
très célèbre, un écrivain très célèbre qui magnifie dans ses ouvrages l'amour de la France. Et puis enfin, une sommité en matière historique qui est Jacques Hers, qui est un ancien professeur de la Sorbonne, spécialiste d'histoire médiévale. Oui. Donc ça, c'est la première partie. On remet tout à plat. Mm-hmm. On essaye d'expliquer et de démontrer que tous les poncifs qu'on nous assène en longueur de temps sur l'Église ont, pour certains d'entre eux, un fondement qu'il va falloir essayer d'expliquer. Il ne s'agit pas de faire d'angélisme et de repeindre l'histoire de l'Église avec de la peinture dorée. Ça, c'est pas l'objectif de cette partie, mais de remettre les choses en place, de rétablir la vérité. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est de montrer que dès le départ, dès la création de l'Église par notre Seigneur, il y a une hostilité qui n'est pas simplement une hostilité des idées, parce que cette hostilité des idées, elle serait tout à fait acceptable, mais qu'il y a une hostilité physique, violente, persécutrice, qui s'exerce contre l'Église. Et cela dès l'ère des premiers chrétiens. Et donc nous avons également fait appel à des historiens, des écrivains, souvent engagés. Il y a en particulier Serge de Beketch, oui, que vous connaissez un petit peu, je crois, Daniel Amiche.
Un tout petit peu, oui. Enfin, on se croise dans le studio de temps en temps. Quoi.
Il vous tyrannise un petit peu en vous piquant quelques minutes
Les mercredis. Je rappellerai quand même qu'il est chez lui. Je ne peux quand même pas exagérer.
C'est vrai. Mais j'espère qu'il vous demande pardon de tout le mal qu'il vous fait le mercredi soir.
Vous n'avez pas besoin de demander pardon.
Il y a un historien comme Philippe Conrad, qui est un professeur généraliste d'histoire qui est tout à fait renommé. Hilaire de Crémier, qui est souvent intervenu sur ce micro, qui est quelqu'un d'absolument passionnant. Donc ces intervenants vont nous donner un petit peu
un contrepoids
de ce qu'on entend, de ce qu'on lit tous les jours dans les journaux, de ce qu'on entend à la radio. Quand vous regardez les dernières éditions du Monde sur les mois passés, vous avez eu des articles sur Galilée, sur Copernic, tout ça en une, sur la béatification du cardinal Stepinac. Ça, trop c'est trop. On n'a pas le droit, étant catholique, de rester les bras croisés ou les bras en croix en disant « bon, de toute façon, attendons la fin du monde, protégeons-nous, sanctifions-nous, on n'a pas le droit ». Le Seigneur nous a pas demandé d'aller convertir de force nos frères, il nous a simplement demandé d'aller prêcher, d'aller enseigner la vérité. Ensuite, ils sont libres, et libres à eux de croire ou de ne pas croire. Mais en tout cas, il nous a jamais demandé de fermer nos oreilles, et de se mettre à genoux et de s'offrir en holocauste. Voilà.
Ça tombe bien parce que je suis en train de lire. Enfin, vous me direz, ça tombe bien qu'est-ce qu'il raconte, puisque ça va paraître dans votre sens, mais vous allez voir que c'est intéressant quand même. Ce que je suis en train de dire, c'est mes lectures nocturnes, quoi, ce moment de la journée où je peux lire, une magnifique, pas une biographie, mais une espèce de biographie sur Saint Paul. C'est une réédition d'un ouvrage qui a dû paraître juste après la Seconde Guerre mondiale. Et on s'aperçoit, quand on voit le travail que Saint Paul, extraordinaire que Saint Paul a fait, on s'aperçoit que il est en fait l'inventeur de la liberté moderne. Pas de la liberté révolutionnaire, n'est-ce pas, mais de la liberté de l'esprit dans un monde antique ou judaïsant, puisqu'il est issu de ce milieu, qui était extrêmement formaliste et extrêmement hostile à l'esprit de liberté. Et je crois que c'est une chose qu'il faut rappeler, parce que la propagande depuis les Lumières montre dans l'Église une espèce de grande organisation internationale de contre la liberté, d'aliénation des gens, alors qu'en fait c'est un instrument de libération extraordinaire de libération intellectuelle, libération morale et aussi de libération sociale.
C'est ce que
même
dit...
je suis pas partisan de la théorie de la théologie de la, la libération évidemment, mais en fait c'est aussi un moyen de libération sociale, de désaliénation.
Vous avez raison, Daniel Amiche, c'est ce que dit notre Seigneur dans l'Évangile, la vérité vous rendra libre.
Oui.
Et saint Paul qui parcourt en bateau, à pied le monde méditerranéen, il passe de ville en ville, il prêche. Il crée des petits îlots de premiers chrétiens où il peut, là où il est reçu de façon un peu plus, disons,
fraîchement,
et ben il s'en va. Et puis, en général, son message fait son œuvre. Et puis quelques années après, on voit apparaître des premières communautés. Tout ça avec la simple parole et l'action de l'Esprit Saint. Et c'est important, de se retremper parfois à ces convictions que nous avons, mais qui sont, encore une fois, quotidiennement battues en brèche par l'esprit ambiant. Alors, concernant cette université d'été...
Alors, on va donner peut-être maintenant un petit peu de renseignements. Voilà. C'est la première fois que vous venez à la radio, vous m'avez
dit. Alors, moi, c'est la première fois que je viens sur Radio Courtoisie, je suis très content.
Félicitations, parce que vous vous débrouillez très bien, hein.
Je vous en remercie.
Il n'y a aucun problème parce que vous n'avez pas la frayeur devant d'être pas tétanisé par le micro.
Non. Mais je suis vraiment très enthousiasmé par ce sujet, d'autant plus que.
Ça se sent.
Il y a l'aspect, d'études de cette université d'été, mais il y a à côté toute une.
Aussi la vie en commun,
ces petits îlots de chrétienté. Cher à Serge de Bekech, comme les feux de la Saint-Jean de Villaumont, comme les pèlerinages de Chartres ou de Montmartre, où on se retrouve, où on est heureux parce qu'on est en fait une famille qui habite aux quatre coins de la France et parfois du monde, puisqu'on a des amis qui viennent nous voir d'autres pays d'Europe. Et c'est vraiment passionnant. On se retrouve, on a des visites culturelles, puisqu'il est prévu de voir le Vieux Mans. Et puis également, là j'incite vraiment dessus, des activités pour jeunes. Parce que les jeunes peuvent être rebutés par ce programme. Bon, il faut savoir qu'on leur a concocté une après-midi terrible avec de la voile, de l'équitation, du VTT, de l'escrime peut-être. C'est un scoop, je ne sais pas si j'avais le droit de le révéler, mais je l'annonce parce que c'est vraiment
quelque chose qui est très intéressant.
On va faire attention.
Voilà, soyez prudents. Parce que habituellement, on ne parle jamais de vos universités d'été, mais si jamais il y avait un pépin avec les jeunes, c'est sûr qu'on en parlerait.
Mais tout est encadré par des moniteurs, on fait vraiment bien attention. Et on a de plus en plus de jeunes, on est ravis parce que vraiment, si on n'était qu'entre personnes convaincues, ça ne servirait à rien. Là, l'intérêt, c'est aussi d'amener des amis et puis de leur montrer, la réalité de ce qu'est l'Église.
Alors, je rappelle quand même que vous écoutez Radio Courtoisie. Il faut s'identifier un peu plus fréquemment que nous le faisons, mais dans le feu de la discussion, nous oublions. Mais nos auditeurs savent, il y a un temps Radio Courtoisie, donc eux savent en tous les cas, mais il vaut mieux le faire pour le CA, etc. Bon, CES, non, c'est quoi le CA, quoi ?
CSA.
Quoi ?
CSA.
C'est le CFAR, quoi ? CSA. Ah, CSA. Le CSA, le CSA. C'est le centre...
supérieur.
Conseil ?
Supérieur.
Conseil supérieur d'audiovisuel. Voilà, ça y est, je l'ai dit. Moi, je ne suis pas très bon pour les sigles et les trucs comme ça. Et puis en plus, alors là, vraiment, l'appareil ne marche pas. C'est effrayant. À coup d'une oreille, à coup d'une autre. Donc, alors, on va donner l'adresse. Donc, ça se passe du jeudi 15 juillet, au dimanche 18 juillet. Donc, quand le centre des études historiques du Mans se termine, le 14, hop, vous filez, c'est dans la Sarthe, c'est à 20 ou 30 km du Mans.
C'est à 20 km du Mans. Et le centre des études du Mans nous a bien aidé pour trouver ce magnifique château de Belle-Fille où vont avoir lieu ces journées de Renaissance catholique.
Voilà. Donc, vous voyez, alors, vous allez dans l'un, puis dans l'autre, vous passez un très bon mois de juillet. Puis après, vous allez finir à Saint-Bertrand de Comminges. Gardez un petit peu de temps pour après. Donc, si vous souhaitez des renseignements, plutôt que de donner beaucoup de détails, je crois que le mieux, c'est de donner les renseignements pratiquement. Renaissance catholique, l'adresse est 89.
Rue Pierre.
Ça, c'est pas de peau. Rue Pierre Brossolette, 92 130, ici les Moulineaux. Eh bien, séminaire, paraît-il autrefois, maintenant.
Oui. Il est toujours. Qui sert toujours. Foyer d'étudiants, maintenant.
Ah, ben, c'est bien. Bon. Et alors, le téléphone. Moi, ça sert à quelque chose. Alors, le téléphone, c'est 01 46 62 97 04. Je répète, 01 46 62 97 04. Alors, tous ces renseignements, bien, vous pouvez les retrouver, de toute façon, en composant le 3615, libre journal de Franc 23, la minute. Éric Sinotti, merci. Vous avez encore un mot à dire, un seul mot
Pour les jeunes.
Pas un gros mot.
Pour les jeunes, venez tous. Des tarifs imbattables, on fait des opérations de parrainage, mais il faut vraiment venir pour passer des vacances intelligentes.
Merci Eric, vous pouvez rester avec nous. Marie, deux messages, non un message
Oui, effectivement Romain. Daniel. Et tout d'abord une auditrice. Ne croyez-vous pas que les descendants actuels des pauvres hères qui ont torturé des religieux catholiques devraient aussi demander pardon pour les crimes de leurs ancêtres?
Ah oui, oui, bah faut tout le monde. Moi je suis pour le pardon, mais que tout le monde demande pardon. Et embrassons-nous Folleville. Allez, continuez, notre message.
Un auditeur, vous oubliez que depuis le Vatican II, tous les hommes sont chrétiens sans le savoir et non, qu'il non. est inutile d'essayer de les convertir non, puisque non. toutes les religions se valent. Non, non. Signé un auditeur ironique.
Oui, oui, non, 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 mais là, l'auditeur a beau être un peu ironique sur ce sujet, je crois qu'il ne faut pas faire trop d'ironie et il ne faut quand même pas non plus faire dire au concile ce qu'il n'a jamais dit. Il faut quand même faut être calme sur ces questions. Alors, avant de... Mais enfin, chacun peut avoir son opinion, mais enfin, il y a toutes les opinions sont dans la nature, les bonnes et les mauvaises. Avant de passer à Jean-Patrice Brosse, bien, je crois que le mieux pour se mettre un peu dans l'ambiance très Jean-Patrice Brossienne, si je puis dire, c'est d'écouter un court extrait, 2 minutes et quelques, d'un des quintettes du Padre Antonio Soler. Je crois qu'on avait décidé de prendre le quintet 2 en fa majeur. On va écouter le minuetto, parce que il est très court. Alors on l'écoute. Merci. Voilà, c'était un extrait du quintet numéro 2 en fa majeur du Padre Antonio Soler. Je rappelle que le Padre Antonio Soler est né au début du XVIIIe et mort à la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est quelqu'un c'est un Espagnol, un prêtre d'ailleurs, un claveciniste époustouflant. Enfin, il a composé des choses magnifiques. On en avait déjà écouté parce que je crois que vous avez déjà reçu le premier volume, il me semble, du quintet. On vous entend mal là, je trouve, non? Oui. Ça va, vous parlez bien près du micro. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, je vous invite pour parler d'abord de cet événement musical qui est un des grands événements musicaux de l'été depuis déjà un grand nombre d'années, puisque le Festival du Commun a été créé une vingtaine d'années.
Je crois que c'est la 26e année.
Oui, c'est la 24e année. 24e année. 24e année. Ouais, ouais. Et dans un cadre qui est un cadre enfin, formidable, enfin, il y a plusieurs cadres, parce qu'il y a la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges, la basilique Saint-Just de Valcabrère et la collégiale de Saint-Gaudens. On doit dire Saint-Gaudens, je pense. Hein. Saint-Gaudens. Ah bon, Saint-Gaudens.
Saint-Gaudens.
Bien, alors Saint-Gaudens. Alors dans la cathédrale, dans la collégiale de Saint-Gaudens, ce sont des lieux vraiment merveilleux et un pays qui est magnifique, où s'organise donc ce festival du Comminges. Ouais. Dont vous êtes le directeur artistique déjà.
Et le fondateur.
Le fondateur depuis déjà un grand nombre d'années.
Eh oui.
C'est vous qui avez fondé le festival.
Oui, c'est moi qui l'ai fondé.
Ben vous étiez alors, vous étiez tout petit.
J'étais
comme ça,
encore au conservatoire, oui.
C'est pas incroyable, c'est pas incroyable.
J'ai donné un récital d'orgue, j'étais invité à donner un récital d'orgue là-bas, sur un orgue qui était en très mauvais état, il n'était pas restauré encore. Et puis j'ai sympathisé avec les gens qui organisaient 2-3 concerts dans l'été. Ils m'ont demandé quelques conseils, on est restés très amis, et puis voilà, c'est comme ça qu'est né ce festival qui est important maintenant.
Oui. Ah ben il est de réputation internationale. Mmh. Et d'ailleurs, vous allez avoir aussi des invités, que ce soit des ensembles instrumentaux, que ce soit des musiciens, des instrumentistes, mmh. Qui viennent absolument de tous les pays.
Enfin, oui, c'est une belle saison. Chaque année,
magnifique.
Chaque année, en tant que directeur artistique, je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire l'année prochaine? Cette oui. saison était belle, mais je ne pourrais pas faire mieux. Je trouve que celle-là est plutôt équilibrée, en tout cas.
Eh bien, on voit, il y a l'Orchestre Philharmonique de Novosibirsk. Voilà. Il y a un joueur de luth qui doit être, je pense, un Allemand, Jürger oui. Hübscher. Il y a les chœurs du New College d'Oxford. C'est incroyable. Enfin, il y a l'équateur français, il y a l'équateur parisien bien connu. Il y a évidemment le concerto rococo que vous dirigez. Oui. Enfin, c'est vraiment. Il y a même d'ailleurs un organiste dont j'ai l'impression qu'il est coréen ou non.
Oui, je crois que c'est une jeune organiste. Qui a obtenu le Grand Prix de Chartres.
Ah bah oui, alors c'est elle. Dernière, oui, tout à fait, voilà. La dernière. On en avait parlé. On avait parlé de ce grand concours.
Voilà, on les invite tous les deux ans puisque c'est tous les deux ans le concours de Chartres. Et donc cette année, c'est une japonaise ou coréenne.
Oui. Alors il y a donc quasiment du 14 juillet, donc je rappelle pour les auditeurs au milieu, fête de Saint Bonaventure, jusqu'au samedi 28 août. On peut dire que quasiment tous les deux trois jours, il y a un concert absolument formidable. Alors, les œuvres de Jean-François Dandrieu, vous qui aimez Éric Sinotti, Jean-François Dandrieu, vous allez être gâtés si vous avez le temps d'y aller, puisqu'on va redonner les Vêpres de l'Assomption. Hein, qui avait été enregistré, je crois d'ailleurs, pour la première fois à Saint-Bertrand de Comminges, du Michel Corret, du Bach, et puis beaucoup des créations françaises qui sont des commandes du festival.
Oui, tous les ans on commande à des compositeurs de nos jours contemporains. C'est Charles Chêne cette année qui écrit une œuvre pour orgue, baryton, et donc qui a été écrite l'année dernière. Elle est toute fraîche, je crois.
Et je vois ici que vous avez l'ensemble vocal Alix Bourbon, que je connais. Oui. Elle n'est pas pu venir, mais elle avait fait un disque formidable de Dupuis.
Ah oui, c'est exactement.
Magnifique.
Exactement. Une reconstitution du 18e siècle.
Formidable. Vraiment, tout à fait.
Une personnalité étonnante.
Ah oui, Alix Bourbon, c'est
une grande personnalité de Toulouse.
Alors, c'est vraiment un programme superbe. Beaucoup d'auteurs anciens et beaucoup d'auteurs modernes, pour ne pas dire contemporains, parce que Marcel Landowski aussi vous donne une œuvre pour ce festival. Et c'est toujours un succès. C'est un succès prodigieux.
Oui, oui, oui. Ça, les concerts attirent beaucoup de monde. Et pourtant, c'est la grande montagne, la grande campagne. Les gens n'habitent pas près des lieux des concerts, mais ils font beaucoup de kilomètres pour venir écouter.
Mais c'est l'été.
C'est l'été, et je pense qu'il y a une variété de programmation, une variété de styles de musique, une variété d'interprètes qui fait que les gens ne sont jamais dépaysés et en même temps ils ont envie de revenir parce que le concert suivant va être complètement différent du précédent.
Alors on peut s'inscrire à un concert ou à plusieurs concerts,
oui, sûr,
à toute la saison, aux séries, etc. Bon, enfin les prix sont très variables, hein. Ça va de 70 francs le moins cher à 180 francs le plus cher. Alors c'est quand même, on est dans une gamme de prix quand même. Hein, qui est assez concurrentiel.
Et on entend
avec le cinématographe.
On entend bien partout dans ces lieux, dans ces églises, dans ces cathédrales, on entend bien partout. Donc les places les moins chères ne sont pas mauvaises.
Bon, alors on va inviter nos auditeurs à rêver un peu de cela. Et plus que de rêver, c'est de faire passer le rêve dans la réalité. Et s'ils ont l'occasion d'aller dans la région, c'est le moment d'aller écouter un concert. Et s'ils n'ont pas encore de projet de vacances, c'est le moment d'orienter vos vacances vers cette région qui, au demeurant, est absolument magnifique.
C'est magnifique.
Alors, si vous souhaitez des renseignements et éventuellement même pour réserver, hein, c'est tout à fait possible, vous pouvez le faire maintenant. Eh bien, nous allons vous donner un numéro de téléphone que vous pouvez appeler au jour, enfin aux heures de bureau, je suppose, hein, et les gens vous donneront les répondeurs de toutes les manières. Et puis surtout, vous demanderez le petit prospectus, le petit dépliant, hein, qui vous donne tout le programme de ce 24e, la 24e saison du Festival du Comminges. Alors le téléphone, c'est le 05 61 88 32 00. 05 61 88 32 00. Le Festival du Commun, si vous voulez le réécrire, eh bien c'est 31 260 à Mazères, M-A-Z-E-R-E-S. Il y a également un numéro de fax qui est le 05 61 97 45 60. J'ai dit fax, hein. J'ai pas dit Bellino ce soir, j'ai fait un effort. Hein. Et puis alors, un numéro de web, alors là, je ne peux pas le donner parce que c'est trop compliqué, c'est plein de mal. Je ne peux pas le donner, ça, personne ne pourra noter ça. C'est un oui. Enfin, ils sont modernes, vous voyez, ils ont aussi l'Internet. Voilà. Jean-Baptiste, peut-être 5 minutes pour nous dire un petit mot de présentation sur l'Antonio Soler, le deuxième volume.
Le deuxième et dernier volume, donc des 6 quintettes, qui est un grand travail qui m'a pris plusieurs années, évidemment. Et donc j'ai terminé l'enregistrement de ces 6 quintettes. Et je suis en train de terminer la partition révisée du manuscrit, donc ce qui sera une partition de 500 pages. Je suis en train de terminer ce travail bénédictin qui consiste à surveiller chaque note du manuscrit, surveiller chaque tâche, puisque c'est très
le
ancien.
Manuscrit se trouvait où?
L'Escorial.
Oui. Il a vécu là-bas, d'ailleurs.
Il a vécu toute sa vie. Il est entré à 20 ans. Il est mort à l'Escorial à 54 ans, je crois. Et il était à la fois maître de chapelle, à la fois moine, évidemment, moine hiéronymite, et puis compositeur de la musique de chambre des enfants d'Espagne.
De l'enfant Gabriel.
L'enfant Gabriel, voilà, qui était le plus musicien, mais son frère était aussi, ses frères étaient également musiciens, tout le monde faisait de la musique dans la famille, mais l'enfant Gabriel est celui qui a commandé, en tout cas, ses 6 quintettes, ouais. De même que les 6 concertos pour orgue, ouais. Pour 2 orgues. Sur lesquels je vais bientôt travailler, à la fois enregistrement, concert et édition. Et il est également c'est grâce à lui qu'ont été écrites ces fantastiques sonates pour clavecin dont vous parliez tout à l'heure, qui sont tout à fait admirables, aussi belles et quelquefois très supérieures à celles de Domenico Scarlatti, qui était son professeur à Madrid.
Ah oui, moi je trouve vraiment Antonio Soler est une découverte. Alors
c'est un très grand compositeur.
J'ai pas dit, mais le disque que nous avons eu le bonheur d'entendre à peine 3 minutes est donc édité par Pierre Verani. Il faut que je donne la référence du disque, c'est la référence PV pour Pierre Verani, 799 041. Alors ça, on le trouve dans tous les...
Oui, il est sorti il y a 15 jours, je crois. Il y a une chose très étonnante avec Soler, c'est que lorsqu'on va faire des recherches, des études à l'Escorial, dans la bibliothèque de l'Escorial, on a accès aux œuvres de Soler. C'est absolument colossal. Ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan de Soler. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, une trentaine de messes, il y a une vingtaine de requiem, il y a un nombre absolument considérable d'œuvres de grande importance avec orchestre, chœur, soliste.
C'était un génie, quoi.
C'était un génie qui n'est pas très connu, je ne sais pas pourquoi. Il serait temps que les chercheurs se mettent.
Grâce à vous, Jean-Baptiste Brosse, grâce à vous, on commence à le connaître un petit peu. Enfin, vous l'avez fait découvrir en tous les cas, et je pense que vous l'avez fait découvrir à un certain nombre de auditeurs.
J'en suis très
heureux. C'est une très très bonne chose parce que c'est vraiment un auteur extraordinaire. Sa musique est d'une vivacité, d'une légèreté, d'une joie de vivre.
Absolument,
qui est extrêmement, contradictoire avec le cadre dans lequel il l'a composé, parce que l'Escorial, quand même, il n'y a rien d'aussi triste au monde que l'Escorial, c'est vraiment très 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 triste, même si c'est beau, si vous voulez, c'est... Bon, mais c'est triste. Et sa musique, à lui, est une musique...
On ne sait pas quelle était la vie là-bas. Il y avait des petits pavillons qui avaient été construits, justement, pour les enfants, pour pouvoir donner cette musique de chambre, et qui sont à 500 mètres ou 1 kilomètre du monastère lui-même, qui, effectivement, est très austère, très froid, qui est assez sinistre, qui est gigantesque, qui a un gigantisme du monastère. Et à côté de ça, ces petits pavillons... une espèce de scène, enfin de lieu pour le bonheur, pour la joie, pour la musique, pour le délassement. C'est très curieux comme mélange.
C'est très, il y a un contraste saisissant. Alors donc je rappelle que vous avez eu la joie d'écouter un court extrait, hélas, trop court extrait, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler, si vous voulez bien, si vous avez un petit peu de temps cet été, si vous revenez entre deux concerts, venez nous voir, le mercredi, il y a toujours de la lumière, et on parlera un peu plus en détail d'Antonio Soler, et surtout, ce que j'aimerais, c'est qu'on en fasse écouter davantage encore à nos auditeurs, puisque ce qu'on a à dire, ce que vous avez à dire est très intéressant, mais la musique l'est aussi. Donc,
je pense qu'elle est bien plus intéressante.
Ça tombe tout le temps, et puis la radio, c'est mieux, c'est plus facile de passer de la musique à la radio que de la peinture, par exemple. Vous voyez, c'est différent. Voilà. Donc, nous avons un média qui se prête très bien à l'expression de la musique. Vous souhaitiez me dire quelque chose, Marie, non ?
Oui, Daniel, que écoutons Radio Courtoisie, voilà. Et que les auditeurs peuvent téléphoner au 01 46 51 00 85 ou passer une télécopie au 01 46 51 21 82.
Voilà, alors... on me demande, un monsieur me dit si je peux rendre hommage... à la mémoire de Monsieur le Comte de Paris, évidemment oui, la mort d'une personne est toujours une chose qui émeut, l'émeut davantage quand cette personne était un prince de la Maison de France. Mais j'en parlerai peut-être davantage demain, puisque je suis encore invité sur Radio Courtoisie dans l'émission d'Anne Colin, pour, tirer l'épée, mais à fleuret moucheté avec un garçon que j'aime beaucoup, qui a fait un livre très très beau sur la descendance du comte de Paris. Il n'a pas tout à fait les mêmes positions dynastiques que celles qu'on me connaît ici, mais il n'empêche qu'on peut quand même tout à fait se supporter. Voilà. Donc je rends hommage à la Maison de France en l'un des princes cadets de cette Maison de France qui vient de décéder samedi dernier. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer, puisqu'on parle de Maison de France, on va continuer, décidément, on est en plein dedans. Maison de Bourbon, Maison de France, la même chose. On va passer donc des Bourbons d'Espagne avec le padre Antonio Soler, au Bourbon de France, pour aborder un personnage, en fin de compte, trop connu pour être bien connu. Un personnage dont tout le monde parle, tous les historiens parlent, tout le monde aborde cette duchesse du Maine, en fait, née Louise Bénédicte de Bourbon, donc une princesse de Condé, petite fille du Grand Condé. Trop connue pour être bien connue. Est-ce que vous partagez, Jean-Luc Gourdin, ce petit mot que je viens de faire ?
Oh, tout à fait, c'est d'ailleurs l'origine de cette biographie. C'était de tout temps, c'est-à-dire y compris par ses contemporains, donc toutes les mémoires de l'époque que l'on peut trouver. C'était une princesse, je dirais, vilipendée, critiquée, montrée du doigt pour tous ses excès. Et Dieu sait si c'est vrai, si elle était championne dans le domaine. Et puis l'histoire a continué sur, je dirais, cette caricature. Et jusqu'à encore aujourd'hui, que ce soit les monographies, les biographies qui ont pu paraître sur ce personnage, sur cette éblouissante princesse, c'est, je dirais, si vous me permettez l'expression, du même tonneau. Oui. Donc, je dirais pas que ça m'a irrité, mais ça a plutôt excité ma curiosité d'aller gratter. Voilà. Parce que tout le monde s'accorde pour dire que c'était un personnage exceptionnel, un grand caractère, étonnant de son grand-père, le grand Condé. Et par définition, ou plutôt par expérience, un grand caractère ne peut pas avoir que des défauts. Il a forcément quelques grandes qualités. Et bien, en cherchant, oui, j'en ai trouvé, et beaucoup, je crois, qui avaient été ignorés ou occultés. Et qui fait que globalement, la duchesse du Maine, du moins c'était mon objectif et j'espère l'avoir atteint, peut être présentée comme un personnage, je dirais, balancé, avec d'énormes défauts, ça je ne les nie pas, ils sont là, mais aussi d'énormes qualités. Et c'est bien sûr les qualités qui, à mon sens, sont les plus intéressantes, quand on voit en plus ce qu'elles sont parvenues à produire.
Alors, duchesse du Maine, donc, il faudra peut-être nous dire de qui elle est l'enfant et avec qui elle se marie pour prendre ce titre.
Alors, elle est pour faire court, elle est la petite fille du Grand Condé, le vainqueur de Rocroi, qui avait déjà, en son temps, conspiré contre Louis XIV. Elle est donc descendante de Saint-Louis, je précise parce qu'elle en était plus que fière et elle le répétait à satiété, elle était une petite fille de Saint-Louis, et donc elle épouse très jeune, puisqu'elle avait 15 ans, le duc du Maine, qui était le fils aîné des bâtards de Louis XIV et de la Montespan. Donc, elle épouse un bâtard, ce qui va la marquer pour le reste de ses jours. Et bien évidemment, on ne lui a pas demandé son avis. Elle a 15 ans. Épouser le fils du roi, on peut imaginer que pour une jeune femme de 15 ans, c'est presque épouser le prince charmant. Surtout qu'il n'est pas agréable à regarder. Il n'est pas désagréable,
non,
pardon,
non,
à regarder.
Non, on pensait qu'on en a son trouble. Voilà. Il est affecté d'une petite claudication.
Alors, il est affecté d'une petite claudication. Les mauvaises langues disent que c'était, que ça se voyait beaucoup. Certains même disent qu'il portait la canne. Ce qui est totalement faux, ça se retrouve dans aucun écrit, du moins.
On le voit sur des tableaux, par exemple, celui qui a été acheté et restauré à Sceaux, on le voit avec une canne.
Oui, mais c'est avec la canne d'apparat de je ne pense pas, il n'y a aucune mémoire qui mentionne le fait qu'il marchait avec une canne. Et surtout, en plus, il est très riche, hein, parce que son père, donc Louis XIV, l'a doté de nombreux châteaux, domaines, de charges donc très lucratives.
On peut dire que c'est un peu le fils préféré de Louis XIV, même si c'est un bâtard.
Ah, c'est plus que le fils préféré, oui, je dirais. C'est vraiment le favori, le fils favori, beaucoup plus d'ailleurs que son fils naturel, le dauphin, qui donc est mort prématurément, comme vous le savez. Et ça a été le fils, je dirais, entre guillemets, le bâton de vieillesse de Louis XIV. Et surtout au moment où Louis XIV, donc vieillissant, a traversé tous ces drames que l'on connaît, de ses défaites de ses armées, mais aussi de ses deuils familiaux.
C'est une véritable hécatombe familiale.
Ah, tout à fait. Oui.
Et cette position de prince aimé, très particulièrement aimé de son père, il n'en a pas tellement profité. Il a été doté, comme tous les princes de cette époque, mais enfin, il n'en a pas tiré beaucoup d'avantages. C'était un homme assez réservé.
Homme extrêmement réservé.
Il a vraiment, je dirais, il a une psychologie, une complexion intérieure qui est à l'opposé total de la jeune fille qu'il va épouser.
Ah, c'est le mariage de l'eau et du feu, ça c'est clair. Le duc du Maine est quelqu'un de calme, très réservé, de très instruit, il faut préciser, de très très cultivé.
Un savant,
écrivant beaucoup, se passionnant pour beaucoup de choses, aimant beaucoup les traductions latines d'ailleurs, il en fait pas mal. Et également, il est très religieux, pour ne pas dire dévot, comme on disait à l'époque. Et il est clair que autant son épouse ne sait vivre et respirer que dans le monde, lui ne sait vivre et respirer que, comme il disait, dans sa tourelle, la tourelle du château de Sceaux. Et je crois qu'on pourrait dire presque que sa devise, on pourrait citer un autre séen qui est venu quelques années plus tard, qui est notre second fabuliste après La Fontaine, Jean-Pierre Clarisse de Florian pour être plus court, qui a dit dans une de ses fables « Pour vivre heureux, vivons cachés », ça pouvait être la maxime du duc du Maine. Alors que la maxime de la duchesse d'Uhane, c'était totalement l'inverse.
C'est le contraire.
Pour être heureux, vivons, montrons-nous et soyons entourés de monde.
Alors c'est un personnage, je dirais. Moi c'est un personnage, le livre est alors magnifiquement très très bien écrit. Je veux dire, c'est un bonheur de lire un livre pareil, même si parfois il y a des petits coups de patte. Il y a des gens que vous aimez, parfois il y en a que vous n'aimez pas, c'est le duc de Saint-Simon. Alors celui-là, vraiment, vous l'avez, j'allais dire, je dirais dans le collimateur, comme disait l'OTAN il y a quelques semaines.
Je dirais que je ne l'ai pas dans le collimateur. Disons que c'est un grand monsieur, c'est un grand écrivain qui a d'abord...
Est-ce que c'est un grand monsieur ?
Non, ce n'est pas un grand monsieur. D'abord, on l'appelait le petit duc, d'ailleurs. Non, ce n'est pas un grand monsieur. C'est un grand écrivain qui a laissé des mémoires fort passionnantes et qui sont fort intéressantes. Le problème, c'est qu'il écrit ses mémoires 30 ans après les faits et qu'il en profite, comme beaucoup, quand ils écrivent leurs mémoires, pour régler ses comptes. Bon. Et il est très clair qu'il a ses têtes de Turc, et parmi ses têtes de Turc favorites, il y a le duc et la duchesse du Maine. Donc lui, véritablement, règle ses comptes avec le duc et surtout la duchesse du Maine. Donc moi, j'ai pas voulu régler mes comptes.
Non, mais
à l'inverse, j'ai voulu rétablir la vérité.
Oui. Bon, j'admets que c'est un... Pour moi, c'est pas un très grand écrivain. J'admets que c'est un bon écrivain, que c'est intéressant à lire, mais c'est un homme qui ment tout le temps.
Pas tout le temps.
Souvent. Ouais, très souvent.
Et qui invente.
Et puis c'est un aigri.
C'est sûr. Ça, c'est évident.
En fait, c'est un petit bonhomme parce que, bon, on lui confie un poste d'ambassadeur, je sais pas, il s'est très très mal.
Non, il y a vraiment que ses mémoires qui sont grandes.
Voilà, c'est tout.
C'est tout, absolument.
Et sa méchanceté, ça c'est...
Et c'est plus que du mensonge. Il invente des faits. Et puis, même en tant que grand écrivain, il fait beaucoup d'erreurs de style. Ouais. Je suis désolé pour les grands littéraires qui nous écoutent et qui doivent considérer Saint-Simon presque comme un dieu de la littérature. qu'il épluche de temps en temps les répétitions, des fois on dirait du Molière. Mmh. Pour bien enfoncer le clou, il répète en 10 pages 6 ou 7 fois la même chose.
C'est moins drôle.
Donc c'est moins drôle plutôt, c'est moins drôle en plus, oui. C'est des fois même attristant. Parce qu'il y a des longueurs, oui, quand même. Donc, ce que j'ai voulu, c'est plutôt pour établir la vérité. Et par exemple, en face d'exemples très précis où il assassine, parce qu'il utilise même la, je dirais, l'opprobre, la calomnie. Il utilise la calomnie. Donc, en face de ces calomnies qu'il avance, j'ai voulu mettre en face les faits.
Les faits, voilà.
Bon. Et on s'aperçoit qu'à chaque cas, dans chaque cas.
On le prend en défaut.
Il invente. Il invente. Par exemple, il traite le duc du Maine de Satan. Marqué trois lignes plus loin, il ajoute qu'il n'a pas de preuves pour le démontrer. Ce qui est extraordinaire. Bon. Mais il considère le duc du Maine comme Satan, alors que toutes les mémoires de l'époque, tous ses comportements montrent que le duc du Maine était, je n'irais pas dire un saint homme.
Non, mais un homme très pieux, très bon. Il ne cherchait pas à se mettre en avant, et un homme... Oui, d'une complexion très honnête pour l'époque, par rapport à la cour.
Absolument, oui. Tout étant toujours relatif.
Tout étant toujours relatif. Alors, il épouse donc la Louise Bénédicte de Bourbon, la princesse de Condé. Il l'épouse très jeune, vous avez dit, à 15 ans, en fait, elle se marie. Bon, c'est un très gros mariage. C'est la politique des mariages entre les branches de la maison royale, puisque les Condés sont donc issus du frère cadet d'Antoine de Bourbon, le papa d'Henri IV, donc le fondateur de la branche des Bourbons. Et est-ce que c'est un mariage arrangé, sans doute, mais quelles vont être les relations entre l'époux et l'épouse, avec des tempéraments aussi opposés l'un à l'autre?
Alors, il est clair que c'est un mariage arrangé, mais bizarrement, malgré tous les semblables opposés, bizarrement, les premiers temps, ça se passe très bien. Bon. Et je ne l'invente pas. Vous pouvez lire les mémoires de la duchesse d'Orléans, la duchesse Douairière. Vous verrez qu'à plusieurs reprises, elle s'extasie devant le fait que le duc et la duchesse du Maine sont amoureux. Et pourtant, elle aussi, un peu comme Saint-Simon, un peu moins, ne pouvait pas les encadrer. Donc, ce qui donne une certaine véracité au témoignage. Bon. Malheureusement, ça ne dure pas très longtemps, parce que les tempéraments sont vraiment trop opposés. Et puis en plus, parce que... la duchesse du Maine, qui est encore une fois la petite fille du grand Condé, qui porte une admiration pour son grand-père, quelque chose, je dirais, de tout à fait incroyable, eh bien, va découvrir très vite que son mari, à la guerre, bah, il n'est pas très bon. Oui. Au contraire, oui. Parce qu'on l'accuse même de lâcheté, et que toute la cour répand ce genre de rumeurs. Donc là, c'est le début, je dirais, de la distance qui est prise, qui se fait dans le couple. Et puis après, je dirais que bah, ça va être une suite de luttes incessantes, de fuites, de rabibochage, donc une vie de couple, mais extrêmement tumultueuse.
Assez tumultueuse,
avec des côtés, je reviens à Molière, là, vraiment, il y a du Molière par moment. Hein, on se croit vraiment sur une scène de théâtre.
Il y a même une séparation physique, pas une séparation canonique, mais
Il y a un moment où le duc du Maine demande même le divorce, veut la séparation de corps et demande le divorce. Il faut dire qu'il avait de bonnes raisons, puisque son épouse avait conspiré contre le régent, et que, à son insu. Et le duc du Maine s'était retrouvé en prison comme elle. Donc, il s'est passé 18 mois pendant lesquels le duc du Maine a préféré vivre séparé de son épouse. Mais finalement, il est revenu.
Puis ils sont revenus, ils se sont rabibochés.
Voilà. À force d'entêtement, elle a obtenu que son mari revienne, et lui, à force de bonté, il est revenu.
Alors, c'est une femme, une jeune femme d'abord, et puis une femme après, parce qu'elle va, d'abord, elle va mourir à un âge très convenable pour l'époque, 77 ans.
Tout à fait, oui.
C'est très bien.
C'est plus que convenable.
C'est très, très aimable. Elle va quand même connaître, elle connaît le règne de Louis XIV, la fin du règne de Louis XIV, la régence, le règne de Louis XV en partie, puisque elle meurt en
1753,
donc Louis XV est encore régnant. Personnage très autoritaire.
Elle veut être gentil.
Oui, elle est vraiment même un peu tyrannique.
Tyrannique.
Ça, c'est son côté un peu désagréable. Un grand sens de la grandeur qu'elle a hérité évidemment de cette branche de Condé.
Tout à fait. De la grandeur, de la gloire et de l'honneur.
Donc on pourrait dire, oh là là, une personne assez antipathique, assez cassante, qui veut que tout rompe devant elle, mais aussi une personne très attachante, parce que c'est une femme très cultivée, une femme qui vit un peu comme dans un roman, hein, qui veut qu'autour d'elle tout s'organise, que les fêtes s'organisent magnifiquement. Enfin, elle, à Sceaux, elle crée une association. Racontez-nous un peu cette histoire.
Oui, en fait, elle veut tout savoir, tout connaître, toucher à tout, tout vivre en fait. Hein. Elle a un appétit de vie qui est absolument débordant. C'est un véritable tourbillon, cette femme. Et ça, pendant, comme vous le dites, pendant 77 ans, puisque même le jour de sa mort, elle sait qu'elle va mourir, elle demande à ses gens, comme elle disait, de venir pour elle jouer de la musique, de danser, etc., alors qu'elle est au fond de son lit, agonisante. Bon. Et elle crée, en 1703, elle crée une académie. Bon, bien sûr, une académie, parce que je rappelle que le duc de Richelieu, le cardinal de Richelieu, pardon, qui avait créé l'académie, était aussi un de ses ancêtres. Bon. Enfin, pas le cardinal lui-même, mais une de ses nièces. Donc, elle crée à son tour une académie qu'elle appelle l'Ordre de la Mouche à Miel. Hein, donc, ça montre tout de suite déjà le côté fantaisiste qui ne la quittait jamais. L'Ordre de la Mouche à Miel étant simplement une abeille. Et elle trouve, bien sûr, sa devise, parce qu'on ne l'a pas dit ici, parce que c'était peut-être même pas à peine, tout le monde le répète tellement qu'il ne faut plus en parler. Elle était toute petite. Était naine. Et donc, la mouche à miel, l'avantage, c'est qu'elle est toute petite, elle aussi, mais elle pique. Oui. Et donc, elle crée sa devise en disant, elle est petite, certes, mais elle fait de cruelles blessures. Oui. Donc, et ça résume très bien le personnage. Donc, elle crée cette académie, cette ordre de la mouche à miel. Elle a autour d'elle 39 académiciens. Alors, avec les décorations, le ruban, la médaille, l'ordre, bien sûr, le règlement, la nécessité de venir sur convocation à heure dite, le jour dit, et sans être en retard, et surtout sans défaillir. Avec, si on n'est pas là, punition, bannissement, enfin, c'est toute une règle. Et bien sûr, avec comme objectif numéro un, cet ordre de la mouche à miel, c'est de faire la fête. Parce que c'était vraiment la reine du divertissement. Elle passait sa vie à vouloir s'amuser.
Imaginez
au-delà de l'étude, elle imaginait des fêtes extraordinaires. Et tout ceci, ben, elle l'a fait toute sa vie avec ces deux grandes parties. Une partie, je dirais, divertissement et une partie, on dirait aujourd'hui, culturelle. Puisqu'elle s'intéressait vraiment à tout. Que ce soit, mais sur les lettres, le théâtre, elle était comédienne elle-même.
La poésie,
mais aussi la musique, la peinture, la sculpture, l'astronomie, qui était une de ses grandes passions. En astronomie, elle voulait tout comprendre. Donc, elle prenait même des cours de mathématiques pour comprendre. On va avoir l'éclipse bientôt au mois d'août. Elle a eu la chance de vivre une éclipse en 1726. Pendant la semaine qui a précédé, elle a mis tout le monde sur le pont et elle a présenté, donc elle a fait réunir sa cour pour assister à cette éclipse du haut de son pavillon de la ménagerie qui était le point culminant du domaine de Sceaux, et elle a présenté la chose à sa cour comme une démonstration que elle, demi-déesse sur cette terre, arrivait même à commander au soleil. Bon, puisqu'elle s'appelait un peu la reine de la nuit, par opposition au roi soleil.
C'est surtout la nuit, parce qu'alors elle a une vie totalement inversée. Enfin, elle a un petit peu la vie des gens de spectacle aujourd'hui.
Absolument. Si vous
voulez, parce que c'est des gens qui travaillent tard le soir, en principe. Jean-Patrice, vous ne me contredirez pas, très souvent, donc qui dînent très tard, et puis ensuite qui bavardent, et puis bon, on se couche à 3h, 4h du matin. Donc évidemment, on ne peut pas se lever à 7h30,
on ne
peut pas prendre le premier métro. Mais elle, c'était effrayant.
C'est pire que ça, belle saison. Elle se couchait au lever du soleil, parce que c'était le dernier spectacle à voir, justement, de son observatoire de la ménagerie, le lever du soleil. Et ensuite, elle se levait à 3h d'après-midi. Mais sachant qu'elle dormait très peu, pas plus de 3 ou 4 heures, mais que la pauvre servante ou la pauvre femme de compagnie qui était chargée de lui faire la lecture pour qu'elle s'endorme, parce que même à 7h30, 8h du matin, elle ne s'endormait pas. Donc, il fallait lui faire la lecture. Bien. Et elle finissait par s'endormir peut-être vers 11h ou midi. Bon, et à 3h, elle était debout. Donc, elle vivait complètement en décalage, absolument. Et c'était vraiment la reine de la nuit. D'ailleurs, elle a créé, à un moment donné, ce qu'on appelait les Nuits de Sceaux, qui est tout à la fin du règne de Louis XIV, et qui est véritablement, on dirait aujourd'hui, un remake, même si je n'aime pas beaucoup utiliser des mots d'anglais.
Non, surtout règne de courtoisie. Mais...
Excusez-moi, donc une redite, une refondation des fêtes du règne de Louis XIV à Versailles, avec les Molières, Lully et compagnie.
Il est sûr qu'à la fin du règne de Louis XIV, on s'amusait quand même beaucoup moins que...
On s'amusait plus du tout.
Et donc, à Versailles, s'ennuyant comme tout à Versailles, elle a décidé de refaire à Sceaux ce qu'elle n'avait peut-être pas vécu elle-même, mais ce dont on lui avait parlé et dont Voilà. Le monde tremblait encore.
Et donc toute la cour de Versailles accourait à Sceaux. Voilà.
C'est les grandes nuits de Sceaux. Alors c'est une femme donc, une femme de qualité, une femme intelligente, au plan, qui a un sens plutôt un sens artistique, un sens de la fête.
Bon, dotée d'une mémoire fabuleuse.
Très belle mémoire. Ouais. Mais au plan politique, c'est quand même pas, c'est pas un foudre de guerre.
Non, elle est très très largement en dessous du niveau de flottaison. Oui. Elle aurait mieux fait de pas s'y mettre, si j'ose dire, de pas se mettre à l'eau.
Il faut dire aussi, alors, il faut admettre que, il nous reste encore 5 minutes, il faut, un petit débat pour terminer peut-être, il faut admettre que si elle s'est lancée dans cette mirobolante, romanesque et stupide conspiration de Sélamare, il faut dire qu'elle s'y était un peu laissée pousser par la suite des événements malheureux que son pauvre époux a dû supporter.
Tout à fait.
Puisque par une espèce de bricolage successoral et dynastique, un peu comme on a vu d'ailleurs chez les Orléans avec le feu comte de Paris, Louis XIV avait décidé progressivement, graduellement, de faire de ces bâtards des successibles au trône. Or, ça, c'est une chose impossible en droit successoral.
Non français. Seulement des princes du sang.
Non, il y a d'abord des princes du sang,
puis aptes à succéder à la couronne.
À succéder. Mmh. Bon. Et bon, c'est une chose absolument impossible. Et il est évident que ce testament de Louis XIV a été très vite cassé par le régent, mais ils sont allés un peu loin quand même dans la méchanceté, parce que vraiment, on lui a supprimé à peu près tout, quoi. Et lui, comme c'était un brave homme qui n'avait pas du tout envie de se bagarrer, bon, il s'est laissé dépouiller tous ses attributs, sans doute y croyait-il pas non plus lui-même beaucoup, et que c'était pas vraiment son goût personnel, pas le goût du pouvoir, c'était pas un homme de commandement.
Il était mieux dans sa tourelle.
Il était dans sa tourelle à faire ses études. Mais elle, qui se voyait quasiment déjà reine de France,
au moins régente,
commandant
à son mari le régent,
n'a absolument pas supporté ça, et c'est peut-être, on peut dire que c'est une des raisons qui l'ont poussée dans cette espèce de folie politique.
Tout à fait, elle avait commencé déjà un peu avant, elle a continué, et bon, pour faire bref, elle est rentrée dans le mur, parce que non seulement elle n'avait aucune science politique, elle allait toujours tout droit, sans aucune diplomatie, sous la raison tout à fait crédible, c'était une condé que tout devait lui obéir, et ça ne se discutait pas. Or, en politique, c'est pas tellement la règle générale. Donc, elle est allée jusqu'au bout, jusqu'à conspirer, justement, avec ses cousins espagnols, et finalement, le régent qui surveillait tout ça avec son ami Dubois, qui savait tout au jour le jour, qui a laissé faire, parce que ça l'amusait aussi, il fait dire, c'est une conspiration de comédie. Bon, à la fin, il lui a fallu prendre un exemple, enfermé, emprisonné, arrêté de hauts personnages. Ben, il y avait le duc et la duchesse du Maine qui étaient là, il a pris les deux, il les a mis en prison, et comme ça, ça a servi sa politique. Voilà.
Alors peut-être, puisqu'il nous reste deux minutes, nous avons des questions qui sont arrivées, on voudrait quand même les poser à Jean-Luc Gourdin. Alors, je rappelle que nous recevons Jean-Luc Gourdin pour son formidable biographie sur la duchesse du Maine, édité aux éditions Pygmalion Gérard Vatelet.
Alors tout d'abord un auditeur, le grand Condé était-il le mari ou le fils de la nièce de Richelieu?
Le grand Condé, attendez, c'était le mari de la nièce de Richelieu, je crois, ou de la petite nièce. Ah, on va vous répondre tout de suite très précisément.
Oui. C'est
une
question
pour un champion, là.
Le grand Condé. Donc,
pourquoi demander ça 9h du soir, hein. On ne sait plus, hein, Louis II, le prince de Condé.
C'est ça, c'était la nièce.
C'est la nièce.
La nièce, c'était une nièce du cardinal de Richelieu.
Voilà.
Et une question subsidiaire d'un autre auditeur.
Plus en plus fort.
Où la duchesse du Maine est-elle inhumée?
Ah, c'est une excellente question, ça. Eh bien, je dirais qu'on ne sait plus. Parce que quand elle est décédée à Paris, rue de Varennes, dans ce qui est aujourd'hui le musée Rodin, qui était son hôtel parisien à cette époque-là, ses cendres ont été ramenées à Sceaux. Elle a été inhumée dans l'église de Sceaux, aux côtés de son mari. Seront inhumés ensuite l'un de ses deux fils, donc à côté de ce fils à côté de leurs parents. Et pendant la Révolution, comme vous le savez, beaucoup de tombes, surtout de princes et de princesses, ont été profanées. Ça a été le cas pour le duc et la duchesse du Maine. Et donc leurs corps ou leurs restes ont été jetés dans une fosse commune que Dieu ne sait où. Par contre, les habitants de Sceaux qui aimaient beaucoup cette branche des Bourbons, parce qu'ensuite est venu le duc de Penthièvre, qui était vraiment lui un saint homme et qui avait fait beaucoup de bien autour de lui, et entre autres à Sceaux, eh bien, il y a les habitants de Sceaux ont cassé la pierre tombale et l'ont cachée pendant toute la Révolution sous terre. Et après la Révolution, elle a été ressortie, ce qui fait qu'au moins aujourd'hui, on peut encore revoir la pierre tombale, donc, dans l'église de Sceaux.
Jean-Luc Gourdin, il me reste à vous remercier beaucoup d'abord d'avoir eu la gentillesse de venir, d'avoir parlé avec autant d'intérêt.
Il n'a même pas eu le temps de parler de Voltaire.
Non, bah, oh là là, mais faut revenir, donc sur. Alors oui,
en 10 secondes, alors, vous avez... que c'est la Duchesse du Maine qui a découvert Voltaire, qu'il s'appelait Arouet.
Voilà.
C'était une bonne impresario quand même.
Donc Jean-Luc Gourdin, la Duchesse du Maine, Louise Bénédicte de Bourbon, Princesse Condé, c'est un très très beau, très très belle biographie, pardon, éditée chez Pygmalion. Un beau volume de 400 pages. Alors ça, c'est vraiment une bonne lecture là pour cet été, en attendant que le
surtout pour les dames.
Voilà, pour les dames, que se lève le rideau du Festival du Commun, que commence à
ou après
l'Université de Renaissance Catholique. Pendant les intermèdes, on peut lire ce livre. Merci beaucoup Jean-Luc Gourdin.
Merci de votre invitation.
Merci Jean-Patrice Brosse. Merci Éric Sinotti. Nous nous retrouvons dans 15 jours, si Dieu le veut. D'ici là, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech du 23 juin 1999, rediffusé le dimanche 23 février 2014 dans la nuit de 2h à 5h. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM des 3 heures de l'émission pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Yeah, no.